Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Les mecs que je veux ken.
Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce sixième épisode des meufs que je veux ken, avec la formidable Élise Goldfarb, qui n'est pas comédienne ou humoriste, mais entrepreneuse, femme d'affaires, créatrice d'une agence en strat et conseil, fondatrice du Média Fraîche. À 25 ans, elle prenait les rênes de la stratégie de contenu du site Melty avec sa collaboratrice Julia Layani. Elles ont créé également ensemble le podcast Coming Out, numéro 1 Spotify dans 3 pays pendant 110 jours, où l'on entend les récits drôles et touchants de Marie Papillon, Bilal Hassani ou encore Mounir Majoubi sur leur Coming Out. Je sais pas d'ailleurs c'est quoi le terme français pour coming out, faire sa sortie. Ouais. En tout cas, j'ai adoré cette discussion. J'arrivais pas à partir de chez Élise, qui est drôle, naturelle, spontanée, sincère, jeune. Élise est jeune et je veux copier ses expressions. Et moi aussi dire hors de quest pour hors de question, c'est de la false pour c'est de la folie ou encore minique pour faire des manières. Attention, le son est un peu saturé. La plupart de mes invités se tiennent toujours un loin du micro et je dois rehausser ensuite le son, leur piste derrière en post-prod. Là, Élise était très proche du micro. J'aurais dû la corriger, mais je faisais pas confiance à mon retour audio à cause de cette histoire d'interférence. Bref, donc attention, c'est un peu fort le volume. Vaut mieux que vous baissiez chez vous peut-être le son. Quelques éléments de compréhension avant de démarrer. À un moment, on parle des EI et de Korvol. Ce sont deux colonies juives socialistes. Les EI, c'est les éclaireurs israélites, les scoutfeuges. Et pour Korvol, je vous dirige vers l'épisode 14 de mon podcast avec Louis Chappé, où on en parle longuement. Petit erratum, je dis au début que les meufs que je veux ken, je vais continuer tout 2021. Non, voilà, quand même pas. J'adore les meufs, mais si on a bien compris un truc... Oh non, mon lave-vaisselle se remet en route, putain, mais trop chelou. Oh. Why? Qu'est-ce que je disais? Oui, petit erratum, par rapport aux meufs que je veux ken, je vais pas continuer tout 2021. Non, quand même pas, voilà, j'adore les meufs, voilà, si on a compris un truc, c'est que je veux pas ken les meufs. On a encore 4 épisodes pour comprendre pourquoi. Mais donc on reviendra en février à la forme classique des dudes, des gars, voilà. Il y a plein d'autres choses hein, que je veux... maintenant, c'est pas mon lave-vaisselle, c'est mon chat qui fait caca. Mais nous, tu pouvais pas choisir un meilleur moment, hein? Exprès pour me faire chier. Mais nous, oh non! Putain, mais dans ce, il s'imagine qu'il est en train de creuser un trou. C'est bon, là? Oui. Non, je vais revenir... Minou, laisse-moi finir mon intro, bordel de merde! Il veut sortir dans le couloir, il pense qu'il veut sortir dans le couloir, et au moment où il est dans le couloir, il se rend compte qu'il aime pas ça. Là, c'est l'histoire de la vie, mais je vais aller lui ouvrir le couloir. C'est triste quand même, sa vie, d'à chaque fois, de penser qu'il y a toujours un truc mieux qui l'attend que sa réalité, alors que non, il n'y a rien. Pour finir, donc non, je reprendrai les mecs en 2021. Je reprendrai les mecs... Et d'ailleurs, j'en ai invité 3, enfin j'en ai déjà enregistré 3, humoristes qui officient entre autres sur France Inter. Le but étant d'envoyer un petit message subliminal à France Inter. Les gars, je suis là. Donnez-moi une chronique. Enfin, dans ma vie, j'obtiens rarement ce pourquoi je bataille et m'acharne. Tout arrive par des chemins détournés, des petits trucs inattendus qui deviennent des gros trucs. Je sors encore 4 épisodes, voilà, après celui-ci, jusqu'au 40. 36, 37, 38, 39, 40, bravo Rosa, tu sais compter. Le 31 décembre 2020, je ferai certainement un grand live Insta, l'après-midi, à partir de 14h, avec les invités du podcast, les nanas, dispo pour passer faire un coucou. Et puis le 1er janvier, j'ai un rendez-vous avec un ex que j'ai pas vu depuis un an pour baiser. C'est pas l'américain. Lui, il est très beau et très con. Je peux dire ici, genre, je suis sûre que lui, il écoute pas les podcasts, il sait pas ce que podcast veut dire. L'américain, potentiellement, il m'écoute.
Tant pis, je sais pas quoi lui dire. Écoute, you love me and I don't love you back, so deal with it. And you're not good enough for me, c'est vrai ça, merde. Non mais l'autre, en fait je veux pas, je cherche pas forcément quelqu'un qui a un grand sens de l'humour ou qui soit névrosé. Ce mec, il est le mec d'il y a un an, j'en ai parlé dans le... J'en parle, figurez-vous, déjà, dans l'épisode avec Raphaël Enthoven, de ce gars que je vais revoir, que j'ai rencontré à une soirée avec l'une des invitées du podcast que vous allez découvrir dans quelques épisodes. Incroyable. Il est ce mec, écoutez, il est très beau, hein, c'est le portrait de Timothée Chalamet, mais en grand et musclé, enfin, c'est incroyable. Après, oui, il n'est pas très, très fut-fut, et il est très branché culture porno. Et j'ai vraiment pas envie de me faire sodomiser, quoi, vraiment pas par lui. J'ai envie de lui dire, est-ce qu'on peut faire l'amour de façon romantique, en fait? C'est très bizarre de faire comprendre ça au mec, qu'en fait, pour moi, j'ai envie que ce soit doux, j'ai pas, enfin, je sais pas. Là, j'ai la flemme de sexe violent. En plus, j'ai trop grossi. Je suis pas assez mince pour faire du sexe violent. Voilà. Enfin. Donc, le 31, rendez-vous à 14h pour un grand live. 1er janvier, pensez à moi. Je suis en train de baiser violemment ou doucement, je vous dirai. Et le 2 janvier, je pars à l'île aux Moines sans prendre de billet de retour. Wouhou ! Donc, si pas de callback, de casting ou quoi, bah, je serai là-bas. Je resterai là-bas. Minou sera chez ma mère. Et je vais essayer d'écrire mon bouquin, mon petit Goncourt. J'ai été contactée par un éditeur, figurez-vous. Voilà, quand j'ai dit, enfin, j'ai dit un peu comme ça, pas en blague, mais bon, que j'ai dit dans le podcast que je voulais écrire un livre, et pof, allez, propal, bam. Donc maintenant, il faut que je le fasse. Voilà. Il y a 2 mois, j'avais eu un super rendez-vous avec une putain de prod qui avait kiffé mon spectacle et qui voulait que je ponde une série sur ma vie. Je les ai rencontrés et tout, ça avait super bien matché, puis j'ai rien écrit, voilà. J'ai acheté 2 livres sur comment écrire un scénario que je n'ai pas lu. Pourquoi ? Eh ben parce que je passe ma vie sur Insta, les gars. Et pourquoi je passe ma vie sur Insta ? Parce que je reçois ce genre de message, je vais vous le lire là, celui reçu aujourd'hui. Rosa, je ne te connais pas, je ne suis personne. Par bonheur, je te découvre aujourd'hui au travers de tes podcasts. Je découvre, que dis-je, j'aime tes poèmes de début. Dans l'un d'eux, tu te poses la question si tu n'es pas masculine. L'invité te dit que non, que tu as une voix douce et un physique de femme. Je ne suis pas d'accord. Si, tu as une voix douce et très agréable, mais tu es masculine autant que tu es féminine, tu es juste toi, reste toi. Je ne te connais pas, mais tu es belle et beau, en outrepassant le physique. Je ne sais pas pourquoi je t'écris ceci, ce n'est pas mon genre de commenter les réseaux. Je souhaite juste dire que tu touches mon cœur. Désolée si je t'écris des choses que tu ne veux pas lire, je te souhaite le meilleur, tu es tellement toi. Waouh ! Vous comprenez mon addiction maintenant ? Merci Thomas d'Insta qui m'a envoyé ce DM. Mais comment je vais faire moi sans ces shoots d'amour ? J'ai pas encore la réponse. Et je vous propose qu'on écoute maintenant une femme qui a plein de choses à dire et qui est lumineuse et forte et masculine et féminine, Élise Goldfarb.
Tu veux des gâteaux ?
Surtout pas. Surtout genre pas. J'ai tellement grossi là, c'est l'enfer.
J'ai mangé un McDo à 6h du mat. En fait, faut que tu saches que je me suis couchée à 8h du matin.
Ok, pourquoi?
Parce que, en fait, j'habite dans un immeuble. Attends, ça enregistre là?
Ouais.
Hilarant. J'habite dans un immeuble avec des copains.
Ouais.
J'ai plein de copains à tous les étages.
Ouais.
Et vu qu'on est confinés, on fait que la teuf. Entre nous, entre confinés.
Ah ouais.
On a une petite bulle sociale.
Mais donc, attends, c'est génial. Ça veut dire que là, vous êtes... Il y a d'autres potes à toi qui habitent dans ce même immeuble?
Bien sûr.
Putain, génial. Ouais.
C'est un immeuble coopératif.
Bon, en tout cas, merci de pas faire des stories sur ça, parce que déjà, genre, je sais plus si c'était au déconfinement, mais genre, je suivais tes stories et t'avais une vie sociale de ouf. C'était à nouveau genre trop la fiesta.
Ouais.
Alors que dans ma live, genre, ça revenait tout doucement.
Ouais, mais je vais te dire, avec le recul, c'était nimpe. Enfin, là, on est reconfinés. J'aurais pas dû faire toutes ces teufs. Et à la fois, j'ai déjà eu le Covid, donc je me sens invincible.
Non, puis bon, il y a un moment, en vrai... Enfin, c'est impossible. Enfin, faut trouver un consensus. Faut quand même pouvoir vivre d'une certaine manière, quoi. Parce que sinon, on va se pendre, quoi.
Bah là, Dieu bénisse que j'ai des amis dans l'immeuble.
Mais ouais, c'est génial.
Mais à la fois, ils sont très jeunes.
Ah ouais? Ils ont quel âge?
Ils ont vraiment 19 ans. Mais c'est bien parce que ça me rajeunit.
Ah ouais, c'est ça.
J'aime beaucoup.
T'es la queen parmi eux.
Et ouais. Je suis leur tante.
Ah putain.
Je suis leur tante diabolique. Je leur apprends toutes les bêtises à faire quand on grandit.
Putain, c'est génial. Et ils font quoi? Ils sont
youtubeurs.
Mais non.
Oui, c'est vraiment des gens connus. Mais
parce que t'as fait une vidéo avec Léopold que je connais.
Ouais, Léopold, je l'aime trop, mais il habite pas là.
Non, il habite à Bagnolet.
Ouais. Je l'adore. Bah, il cherchait un appart et je lui ai conseillé de venir dans l'immeuble parce que cet immeuble, il y a plein d'appartements libres.
Ah ouais?
Mais je crois que ça l'a pas chauffé. C'est vrai que cet immeuble est diabolique.
Ah ouais? Mais pourquoi ça l'a pas chauffé? À cause justement des quoi, des caïras en bas ou
Non, mais en fait, cet immeuble, vu qu'il y a plein de gens qui se connaissent,
ouais,
c'est très dur d'avoir une vie intime.
Un peu sexuelle, voilà. Un petit peu. Oui, tu peux pas avoir plusieurs maîtresses, faut avoir une meuf officielle.
Exactement.
Ou alors dire entièrement la vérité, quoi, et dire.
Bah, dès qu'il y a un... Ouais, non, putain, moi je fais nimp, donc sexuellement, je suis assez. Je fais des bêtises.
Voilà. Non, tu t'amuses, t'es jeune, t'es belle, successful, t'as raison, au contraire, tu te fais ton expérience, c'est maintenant ou jamais, quoi.
Ouais, j'avoue. Mais en tout cas, je kiffe. Mais
et tu brises pas trop les cœurs?
Ben, j'essaye à chaque fois de pas briser des cœurs, parce que je trouve ça horrible, et c'est ma phobie. Mais vu que j'ai la phobie d'être abandonnée et qu'on me quitte, je quitte dès que je sens que on peut me quitter un moment. Donc, j'ai fini par briser des cœurs.
T'es trop une héroïne de film, quoi. Non, mais c'est clair.
Je suis la pire.
Je suis sûre que, genre, dans quelques temps, ou bien des scénaristes qui vont venir, qui vont t'écrire pour te dire, en fait, on écrit une série sur vous. Et est-ce que, genre, on peut, genre, vous consulter, mais en fait, pour savoir, mais c'est trop ça. Alors, attends, avant qu'on commence, je t'ai écrit un petit poème.
Ah, mais c'est énorme.
Okay, j'adore. Alors, l'exercice est encore tout nouveau pour moi et j'essaie de faire un poème le plus sincère possible, encore plus sincère peut-être pour les meufs que pour les mecs. Oh. Élise Goldfarb, je rêverais d'avoir une fille comme Élise Goldfarb.
Arrête.
Qu'Élise Goldfarb soit ma fille, forte et conquérante et surtout pas comédienne, pas artiste, entrepreneuse, indépendante. J'ai découvert Élise via une story de Marina Rollman. Marina recommandait aux boomers qui veulent découvrir TikTok de suivre Élise. Et comme je fais toujours ce que Marina Rollman conseille de faire, j'ai suivi, pour mon plus grand bonheur, Élise. Humour, liberté de ton, féminisme, je sens qu'Élise me ressemble. Elle incarne la gauche Glucksmann dans laquelle je me reconnais. Elle parle du judaïsme d'une façon familière, à l'américaine, totalement décomplexée. Elle est l'avenir. Je la suis elle, mais souvent dans ses stories, on voit sa coéquipière, Julia Layani, qui travaille sérieusement avec un petit air boudeur trop chou. Vous êtes toutes les deux incroyablement inspirantes, votre amitié fait rêver. J'aime la violence et l'outrecuidance d'Élise qui écrit à Xavier Niel et partage sur Insta leurs échanges. J'aime Élise que tu ne craignes aucune figure d'autorité et fasses toi autorité. D'où te viens-tu cette confiance en toi? Et toi, quels sont les mecs ou les meufs que tu veux ken?
Mais attends, c'était trop mignon. Enfin, quel honneur.
Mais non,
et Marina Rollman, tu m'as découvert grâce à Marina Rollman.
Ouais, ouais, ouais.
Mais je l'adore, cette meuf.
Ah ouais, elle est incroyable.
Iconique.
Iconique, ouais, ouais, ouais.
Bah, trop mignon, ça me touche trop, franchement.
Elle fait partie aussi, Marina Rollman, de cette petite Winter Special. Ouais, bien sûr.
C'est un Winter Special.
Bah, je sais pas encore si c'est, au départ, c'était un Winter Special. En même temps, je me dis, c'est un peu chelou que moi qui ai jamais fait Noël, genre, je me mette à faire Noël pour mon podcast. C'est bizarre.
J'adore.
Et je me demande si c'est pas tout simplement 2021, en fait. Si c'est pas genre un truc plus long dans le temps et si sur 2021, toutes les semaines. Ouais.
Trop bien. Ok, donc attends, t'avais des questions?
Non, mais ouais. Bah, plein. En fait, moi, j'adore ce côté burning. Et j'ai lu ton interview dans le Madame Figaro. Et j'étais étonnée de lire que, par contre, t'étais pas la meuf populaire forcément du collège et du lycée.
Eh ben, c'est pas que j'étais quand même assez populaire. Mais j'avais un peu... j'avais ma bande de potes. Et on restait très souvent que entre nous. Okay. Et on ne supportait pas la team populaire du lycée. C'est-à-dire qu'on était un peu les anti-héros au lycée.
Ok.
Il y avait vraiment cette team populaire qui était un peu dans le harcèlement, qui parlait mal aux autres, qui se la pétait. Et nous, on les trouvait tellement ridicules que on prenait les bolos avec nous, sous nos épaules. On leur disait, les gars, on est avec vous. Et on défonçait les populaires. Ce qui nous a finalement rendu assez populaires.
Bah oui, carrément.
On était un peu les rebelles.
Bah ouais.
J'étais dans la team rebelle. Là où Julia, du coup, on n'était pas du tout potes au début.
Ah,
Julia était dans la team des populaires, mais pas de mon lycée, mais du lycée d'en face.
Ok.
Et du coup, on n'était pas vraiment copines.
Incroyable. Toi, t'étais dans quel lycée?
J'étais à Carnot. Et elle était à Sainte-Ursule, qui est un lycée privé catho en face de Carnot.
Ok.
Il y avait vraiment un clash entre les deux lycées.
Ah, forcément, bien sûr. C'est dans quel arrondissement?
Dans le 17e.
Ok.
Et c'est vraiment un milieu très privilégié où tout le monde se la pète. Il faut avoir la dernière doudoune à la mode. On avait tous des sacs Chanel en seconde. Et moi, je comprenais pas du tout pourquoi on était dans ce délire. Mes parents me disaient, Élise, tu es là, mais tu n'appartiens pas à ce monde. Tu dois lire des livres. Tu vois. Et du coup, je me suis trouvé des copains qui étaient dans le même délire que moi.
Ouais.
Qui comprenaient pas trop pourquoi ils étaient dans ce milieu. Et on était un peu les rebelles.
Tu veux dire que dans le 17e arrondissement, parce qu'en effet, le 17e, t'as le côté hyper chic, Villiers. Mm-hmm. Ouais, mais t'as un 17e tout là-haut vers Brochamp.
Ouais, mais.
C'était pas ceux qui étaient à Carnot.
C'était pas ceux qui étaient à Carnot.
Okay.
Ceux-là, ils étaient à Chaptal, ils étaient dans les lycées stylés. Ouais. Mais Carnot, c'était super, j'ai adoré.
Ouais. D'accord, mais t'étais quand même une bonne élève ?
J'étais nulle.
Ah ouais. Mais non.
En fait, j'ai eu des très bonnes notes jusqu'à la troisième. Mm-hmm. J'étais vraiment super. Et en seconde, dégringolade, j'ai redoublé. Enfin, en fait, j'ai découvert la vie, l'alcool, les copains, le sexe, envie de kiffer. Et surtout, je n'aimais pas du tout le système éducatif. Je comprenais rien. Je me faisais chier. Mais ça, depuis la maternelle, j'ai eu de gros problèmes.
Mais, enfin, t'es certainement surdouée, mais ça, on l'avait pas diagnostiqué plus tôt?
Ben, en fait, j'ai été diagnostiquée très très tôt en primaire. Mm-hmm. Et mes parents, enfin, mes profs ont dit à ma mère, vraiment, il faut faire quelque chose parce que votre fille, elle invente des exercices, enfin, elle fait un peu n'importe quoi. Et mes parents, ils sont un peu, ils aiment pas les diagnostics.
D'accord.
Donc ils se sont dit non, on va la laisser. C'est un enfant super autonome. On sait qu'elle est particulière, mais on veut pas qu'elle se sente différente ou stigmatisée. Ce que, avec le recul, j'aurais bien aimé.
Ouais.
Parce que je me suis très longtemps sentie incomprise par mes camarades, par les profs. Je comprenais pas trop ce que je foutais là.
Ouais.
Et après, bah, j'allais très 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 mal quand j'étais étudiante.
D'accord.
Enfin, je détestais mes études et je me disais, mais pourquoi est-ce que on doit s'infliger une telle souffrance? L'école, c'est horrible.
C'était où? C'était à l'ESCP, c'est ça?
Non, ça c'est Julia qui a fait l'ESCP. D'accord. Moi, j'ai fait du droit, okay. Et des sciences politiques, enfin droit international public,
ouais.
Plus exactement, à la Sorbonne.
Ouais.
Donc vraiment très protocolaire, enfin des études hyper scolaires. Hyper intellectuelles, je dirais.
Ouais.
Et je me faisais mais chier, je comprenais pas, c'était... Enfin, je comprenais, je trouvais ça hyper intéressant, mais le mode d'apprentissage me
t'avais
je
besoin,
avilissant.
T'avais besoin d'être dans l'action, hein.
J'avais besoin d'être dans l'action, j'avais besoin d'être dans la pédagogie, je trouvais qu'il n'y avait aucune pédagogie. Et à ce moment-là, je suis allée voir ma mère, je lui ai dit, maman, là, je l'ai réveillée à 4h du matin soir, je pleurais. Je suis allée la voir, je lui ai dit, réveille-toi, il faut que je te parle, il faut là que je vois quelqu'un, en fait, parce que je vais trop mal. Genre, je dois, là, je vais mourir, enfin, je suis vraiment, pas en dépression, j'ai pas du tout une nature dépressive, mais j'ai une vraie déprime. Et elle m'a dit, ok. Et le lendemain, elle m'a trouvé une espèce de thérapeute magique.
Okay.
Qui, elle, enfin, une psy, en fait, hein, tout simplement. Qui m'a diagnostiqué, qui s'est trop bien occupée de moi, et ça a changé ma vie. Et il y a une autre psy. En fait, les psys ont changé ma vie, moi.
D'accord. Ouais.
J'avais vu une autre psy au lycée. J'étais tellement grave à l'école, je faisais tellement la merde. J'étais très, très dissipée, je me suis fait virer de tous mes lycées. Enfin, faut savoir, c'est très grave.
Ok.
Et j'étais tellement, fouteuse de merde que la psy de l'école m'a dit, écoute, moi je ne peux plus rien pour toi à ce stade, il faut que tu ailles voir une psychiatre spécialisée. Donc je me suis retrouvée au CMPP. C'est les services gratuits de psychiatres dans les mairies pour vraiment les gens qui sont délinquants.
Ouais. Ils pensaient qu'il fallait peut-être te médicamenter, quoi. C'est ça le...
Ou que j'aille vraiment en prison. Enfin, ils étaient en mode... Non, mais ils me disaient, tu es une délinquante.
T'enfermer quelque part.
Parce que ça... je supportais pas l'autorité des profs. Enfin, j'étais trop chiante. Franchement, avec le recul, je me dis, mais... Élise, tu es insupportable. Mais à l'époque, je me sentais totalement légitime. Et cette meuf du CMP qui vraiment était psy pour des grosses racailles, qui faisait des trucs hyper graves, elle m'a sauvé la vie. Parce qu'elle était pas là pour l'argent, elle était pas là pour... Enfin, c'était comme une commise d'office, c'est des psy commis d'office en fait.
Ouais.
C'était incroyable. Elle m'a sauvée.
Mais plutôt même enfant, t'avais pas vu de psy.
J'ai toujours vu des psys, ouais. Ça s'est toujours très mal passé.
D'accord, c'est la première fois que ça a bien fonctionné en fait. D'accord.
À partir de ce moment-là, et ça m'a réconcilié avec les psys. À partir de ce moment-là, je me suis dit, les psys c'est trop bien. Enfin, pourquoi personne ne va voir un psy?
Oui.
C'est un tabou.
Ouais. Après, c'est vrai que t'étais peut-être en tout cas prête à faire. T'as rencontré la bonne personne, t'as fait le bon travail. T'as des gens, je me dis, ils refoulent toute leur vie et si jamais ils voyaient un psy, en fait, ils vont mieux sans psy.
Enfin, ouais, bah oui, oui.
Et là, souvent même les connards plutôt.
Mais tu vois, ma psy, elle m'a dit, parce que je suis allée voir ma psy. Enfin là, j'ai changé de psy et je lui dis, oh là là, quand même, je suis jeune pour aller voir une psy. Enfin. Elle me dit, mais pas du tout.
Non.
Au contraire, il y a des gens, elle me dit, tu verrais, j'ai des patients qui viennent, ils ont 50 ans, il y a tout à rattraper.
Mais
c'est trop tard.
Bien sûr. J'ai été en psychanalyse toute ma vie, dès le plus jeune âge, quoi.
C'est très ashkénaze.
Ouais, complètement. Parce que toi, tes parents, ils font quoi comme boulot?
Alors, ma mère est avocate.
Ok.
Et mon père, je dirais qu'il est assez hybride.
D'accord.
Il a fait de l'immobilier toute sa vie. Et un jour, il s'est dit, ça me saoule, je suis un artiste. Donc, il s'est mis à écrire des livres. Il a été très longtemps aussi président du Festival du film israélien.
Mais non, incroyable. Il doit connaître mon père.
Bah ouais, c'est possible.
C'est ouf, ouais.
Ouais.
Mon père est producteur de films d'auteur et donc il a produit pas mal de films étrangers.
Mais carrément, il y a carrément
c'est
moyen.
Marrant, c'est
il
drôle.
A fait ça pendant très très longtemps. Ouais. Là, il est en petite retraite, il chill.
D'accord, ouais.
Voilà.
Et tes deux parents sont ashkénazes?
Ouais. C'est très rare.
Ouais, ouais, 100%, ouais.
100%, pur jus, Alsace. Vraiment, ouais. les premiers jus de France, hein, presque.
Mmh, là, d'accord. Donc,
du coup. Alsace ancestrale, du côté de ma mère.
D'accord.
Et du côté de mon père, Pologne, mafia polonaise, je dirais.
C'est exactement comme moi.
Arrête!
Mais je te jure, moi, du côté de ma mère, non, j'ai un quart catholique par son père, mais sa mère, non. C'est israélite d'Alsace, pareil. Enfin, donc, anciennement, d'Espagne, mais
bien
du Paris, machin. Et du côté de mon père, Pologne.
Putain.
Donc, putain, il y a plein de petites civilités.
Mais ouais,
incroyable.
J'adore.
Ouais, ouais,
mais tu sais que c'est hyper rare, hein. Moi, tous mes copains, ils ont au moins une moitié séfarade ou tout séfarade. Les Ashkénazes sont partis, en fait.
Il y a pas beaucoup d'Ashkénazes, mais si cela dit, toi tu connais pas Corvol.
Une colo, bien sûr.
Ouais, la colo,
oui,
tu l'as pas faite.
Évidemment, non, moi j'étais aux EI, au scout.
Ah,
je suis scout.
Les EI, ok, le camp d'en face.
Exactement, là, okay. On est vraiment une compète de colo, de fudge. C'est énorme.
Ah, c'est incroyable.
Ah oui, Corvol, mais c'est très gaucho, ça. Oui,
oui, oui, oui, c'est très, très... Ouais, ouais, c'est d'extrême gauche, bundiste, antisioniste,
bien sûr,
la totale.
Ouais, ouais. Ouais, non, nous, c'est... Les scouts, c'était très...
C'était plus safe.
C'était plus... Ouais, non, c'était middle. On n'était pas trop politisés.
Ouais, ouais.
Très apolitique.
Ouais, ouais, ouais.
Très apolitique.
Ah oui, non, moi, à mon époque, les monos portaient le kéfier, enfin...
Mais
c'était...
non.
Ah, ouais, 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 si, si. Non, non,
ah
c'est...
ouais, non, nous, pas du tout. On était quand même en mode amour d'Israël.
Ouais. Et c'est devenu un peu plus soft avec les années, je crois. Moi, j'y suis allée vraiment pré-ado, puis je suis pas restée longtemps parce que j'ai eu aussi un souci avec le groupe où je me suis fâchée avec mon groupe. Et dans ce que tu dis, c'est marrant parce que je me reconnais beaucoup. C'est étonnant, parce que je vois ce que tu veux dire avec l'autorité. Et alors moi, c'était peut-être un peu l'inverse, c'est que j'avais aussi un souci. C'était à moitié. J'avais envie vraiment beaucoup de plaire à l'autorité des profs avec qui il fallait absolument que j'ai leur approbation.
Et mais j'avais ça aussi.
T'avais ça aussi.
Oui, quand je vois une espèce de mentor.
Ouais, ouais, ouais.
Je le suce. Enfin, je
voilà,
je suis
une soyotte. Ouais, ouais. Il faut absolument que tu lui plaises.
Je veux pas décevoir.
Mais par contre, j'ai pas eu les. Enfin, j'ai eu des soucis avec des profs. Mais jamais au point de me faire virer et ça je suis admirative en fait, c'est une espèce de...
I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for, but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En fait, c'est une espèce de pulsion de vie, de flamme, de ouf. Et aussi, finalement, un truc assez viril. C'est plus rare, en effet, chez les femmes.
Ben, moi, j'ai toujours eu l'exemple de ma mère, depuis que je suis petite. Ma mère qui est avocate.
Ouais.
Elle a évolué dans un milieu assez masculin.
Ouais,
quand t'es avocat, tu dois toujours un peu, bon, j'aime pas ce terme, mais mettre tes couilles sur la table et l'ouvrir. Et j'ai un modèle familial assez particulier. C'est vraiment un matriarcat.
Okay.
Chez moi, c'est les garçons qui font la vaisselle et qui cuisinent.
Mmh.
Enfin, tout le monde fait un peu tout, mais c'était un peu, mon papa, c'était le papa gâteau.
D'accord.
Et ma maman, c'était la maman qui travaille et qui est très powerful, voilà, c'était elle qui rapportait vraiment bon, même si mon père était super aussi, attention, je l'aime trop,
bien sûr,
mais j'ai grandi dans ce modèle où j'ai toujours cru que la femme était l'égale de l'homme, si ce n'est plus puissante. Donc c'est, oui, j'ai une sorte de virilité, mais parce que ma mère a une sorte de virilité en elle.
Mais tu sais que c'est très bien, c'est Virginie Despentes dans King Kong Theory qui dit que tout ce qu'elle a réussi à accomplir, elle le doit à sa virilité.
Mais évidemment.
Enfin, c'est dommage que le terme soit virilité. Mais quand on le dit, on voit ce que c'est. Enfin, mais c'est peut-être une forme un peu de violence. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on associe les femmes à la douceur, et c'est vrai que parfois t'as l'impression que pour je sais pas ce que t'en penses, mais pour franchir des caps dans la vie ou apprendre à dire non, il faut une forme de
Mais je me suis souvent dit, franchement, parfois j'ai l'impression, avec la société et tout ce que je vois autour de moi, mes copines et tout, suis-je une femme?
Ouais.
Genre, je me reconnais pas du tout dans ce modèle de féminité. Et Julia non plus, c'est comme ça qu'on est devenus meilleures potes. C'est parce qu'on se disait, mais attends, il y a un problème. Pourquoi on a l'impression qu'on n'est pas génial alors que ça se trouve on est vraiment génial. Mais juste, on correspond tellement pas au modèle de meuf qui existe autour de nous. Surtout dans nos milieux où toutes les meufs sont vraiment des meufs qui sont prêtes à être femmes au foyer. Et leur vie tourne autour de avoir un mari.
Ça, c'est le 17e, quoi. Ça, c'est.
Ah oui, oui, oui.
Ouais, vos copines, elles sont vraiment branchées là-dessus.
Franchement, moi, toutes mes copines,
elles sont maquées.
Non, en vrai, non.
Ouais.
Non. y en a quand même qui se sont réveillés.
Ouais.
Qui se sont dit, oula, non, j'ai envie de kiffer, gagner mon argent, de profiter. Mais tu vois, je vois de plus en plus de copines qui sont plus âgées que moi, qui ont 32, 33, qui sont en couple depuis qu'elles ont 20 ans.
Ouais.
Et bon, bah là, elles ont divorcé.
Ouais, ça craque.
Tu vois,
bien sûr.
Se disent, là, j'ai envie de faire des partouzes.
Ouais.
Enfin, j'ai raté toute ma vingtaine.
Mais oui. Ouais, mais c'est vrai que ce truc de est-ce que je suis une femme, moi je l'ai ressenti pas mal en tant que comédienne parce que j'étais dans des écoles de théâtre où les nanas qui étaient là étaient très belles, très douces, toutes beaucoup plus minces que moi et toutes beaucoup plus féminines dans le cliché de la féminité, attentionnées, etc. Et puis beaucoup plus silencieuses aussi,
beaucoup plus à
respecter l'autorité et notamment l'autorité masculine et à écouter et être un peu en séduction et à savoir quand. Et c'est vrai que même sur les projets en fait, moi. Et au point de me faire limite shamer en mode qu'on me fasse croire que je travaillerai jamais en tant que comédienne parce que j'avais une trop grande gueule, quoi.
Ah, mais la base, nous, on nous a tout le temps dit, le truc qu'on nous a le plus dit avec Julia, c'est les filles, vous allez trop loin, calmez-vous. Sauf que à chaque fois, quand on n'a pas écouté ces gens, on est allé encore plus loin et ça a encore mieux marché. Donc,
c'est incroyable.
Ça fout le seum.
Ouais, mais c'est marrant parce que résultat, moi, pour j'ai tellement peu trouvé de modèles de femmes inspirantes en France que souvent je regardais les États-Unis et notamment les américaines, quoi. Et dans ce qu'elles racontent.
Des humoristes de ouf.
Voilà, et les humoristes américaines et les Sarah Silverman ou les Whitney Cummings, qui en fait avec humour, mais ont une espèce d'immense what the fuck très 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 puissant et qu'on avait moins. Alors là après, il y a Blanche Gardin, mais ce que
iconique, mais oui, je vois très bien. Ce que tu veux dire. Nous, quand on nous demande à chaque fois est-ce qu'il y a des meufs, des icônes pour vous, on va rarement citer des meufs françaises, malheureusement.
Ouais, malheureusement.
À grand regret. Ouais. Moi, je cite toujours, là, qui sont dans ma bibliothèque, j'adore Amy Poehler.
Oui.
Elle, c'est mon idole.
Tina Fey
et Amy Poehler, pour moi, c'est genre...
Ouais.
Wow, mon objectif de vie, c'est icônes de l'humour. Ouais. Même Mindy Kaling, Lena Dunham. Ouais. Lena Dunham, elle est un peu nimpe quand même, mais j'adore.
Mais on adore, c'est un nimpe adorable. J'adore.
Mindy Kaling est pour moi icône. Elle a sorti une bête de série sur Netflix.
Ça s'appelle Mes
premières fois, je crois. C'est vraiment un truc pour les ados.
Okay.
Mais c'est génial.
Ah ouais. Mais très entrepreneuse aussi.
Entrepreneuse, génie. Drôle.
Et en fait, sachant rendre active la sororité. C'est-à-dire que moi, ce que je regrette un petit peu en France parfois, c'est que même s'il se passe des choses au niveau du féminisme, c'est que ça reste un peu dans les discours ou dans les likes ou stories Insta, mais qu'en fait, il y a un manque d'action, quoi, vraiment, dans le fait qu'il faut vraiment réformer les... Enfin, copier ce que les mecs savent faire avec leur boys club et leur la façon qu'ils ont de s'engager, de se faire taffer, quoi.
Ben, là, tu marques un gros point. Moi, je vais te dire, je suis en ce moment, en grosse remise en question.
Mm-hmm.
Moi qui me considère, et je pense l'être intrinsèquement, ultra féministe.
Ouais.
Limite, chez nos copains, on nous dit qu'on est trop radical. Là, je commence à être un peu perdue dans mon féminisme. Enfin, en tout cas, dans le féminisme que je vois aujourd'hui.
Mm-hmm.
Dans la société, enfin, en tout cas, dans les petites sphères féministes connais sur Insta.
Ouais.
Je trouve que ça va pas dans la bonne direction.
Non.
Et je me dis, il y a des meufs, ça fait 30 ans qu'elles se battent, mais même 50 ans, qu'elles se battent pour les droits des femmes.
Mm-hmm.
Les droits des lesbiennes, les droits des femmes intersectionnelles, je dirais, pour l'intersectionnalité. Et aujourd'hui, ces combats sont totalement détournés. Il y a un truc où toutes les meufs, toutes les féministes aujourd'hui qui sont un peu connues, mais se font des coups de pute.
Ah ouais, c'est la guerre.
Mais sans pareil. Mmh. Et en fait, j'ai l'impression qu'elles reproduisent elles-mêmes, sans s'en rendre compte, un schéma ultra patriarcal de il y en aura qu'une.
Exactement.
Qui va réussir.
Ouais, complètement.
Mais c'est des putes entre elles. C'est des connasses. Et le mot pute, bon, désolé, je peux pas le faire défoncer aujourd'hui.
Non,
mais ce que je veux dire, c'est que c'est des connasses entre elles.
Ouais.
Ça se fait pas. Elles se tirent entre les pattes. En coulisses, c'est un truc de ouf. En fait, sur Instagram, elles vont prôner un truc hyper bienveillant, hyper cool. Et moi, nous, on nous a jamais rien fait, heureusement. Mais j'assiste à des choses où je me dis, mais oulala, je prends mes jambes à mon cou et je me casse.
Ouais.
C'est pas ça, moi. Je me dis pas féministe pour assister à des choses comme ça.
Et
c'est hyper dommage. Et même, là, il y a des mouvements qui commencent à être soutenus, des associations qui commencent à être soutenues, qui sont pas du tout clean. Et ça me fait flipper. Je te le dis, je me chie dessus. Il y a un film que je cite toujours, c'est Idiocratie.
Ok.
C'est une comédie américaine qui est sortie il y a vraiment 10 ans. Un truc, tu le regardes au début, tu te dis c'est nul.
Enfin, ok.
C'est nul. C'est un film à l'américaine de gros débiles. Et en fait, c'est totalement visionnaire.
Ok.
C'est l'histoire d'un mec qui se fait congeler. C'est une comédie. Hein.
Uh-huh.
C'est un mec qui se fait congeler par l'armée américaine. En mode, on te congèle, on va te réveiller dans 200 ans. C'est un mec lambda, totalement débilos de la société.
Ok.
Et il se réveille, donc, 200 ans plus tard, ou 50 ans, je sais plus. Et le monde est devenu complètement abruti et il est devenu l'homme le plus intelligent du monde.
Wow.
C'est lui qui peut sauver le monde. Alors que, plus tôt, c'était un peu un mec lambda.
Ok.
Et... bon, je vais pas vous spoiler le truc, mais tel que le monde qui dans lequel
voir.
Il arrive,
ouais.
C'est le monde qu'on est en train de vivre.
Ouais, enfin, peu ouais. À peu. Ouais, ouais, ouais,
c'est
ouais.
Très grossier, c'est très exagéré.
Et c'est de qui déjà le film ou c'est qui...
Attends, je mettrai dans les commentaires. Vieux, c'est, mais ouais, franchement, mais... iconique ce film parce que tu vas t'y retrouver. Enfin, c'est vraiment.
Ouais, ouais, ouais.
Il y a des trucs qui se passent aujourd'hui où tu te dis, mais oui, bah c'est la prophétie de ce film qui est en train de se réaliser. Peu
ouais,
à peu.
Ouais, 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 ouais.
Deux,
ouais.
En fait, on laisse la parole à des débiles, moi j'en peux plus.
Ouais, c'est dur, c'est il faut vraiment se retrouver un quelque chose de bienveillance et d'essayer de c'est Delphine Ordwiller que j'adore que je vois trop invité aussi fraîche. Dans les meufs que je week-end. Mais et j'adore justement elle ces théories du genre sont toujours genre un peu what the fuck mais trop marrantes sur elle disait pourquoi il faudrait peut-être qu'il y aurait moins de guerres si le monde était plus féminin et elle disait en fait pour résoudre le conflit israélo-palestinien enfin genre mal dire ce qu'elle disait mais elle disait en fait il faudrait que les hommes soient plus femmes dans le sens qu'ils accueillent et
bien
genre et que le fait de pouvoir donner la vie et d'accueillir en soi un autre être pendant 9 mois c'est ce qu'il faudrait faire en gros pour qu'il n'y ait pas de colonie.
Mais moi j'ai toujours dit bon mais après je vais très loin mais j'ai toujours dit que si le monde était dirigé par les femmes en fait la femme depuis la nuit des temps on n'a jamais été élevée dans la guerre nous parce que les femmes pendant les grosses guerres bon bah elles étaient infirmières elles faisaient à manger et puis elles aidaient dans les usines elles n'allaient pas au combat donc on n'a pas cette espèce de pathologie cette espèce de culture de il faut que j'ai le plus grosse gag donc il faut que je me batte donc bon on se ferait des sales coups on se ferait des sales coups entre présidentes mais ce serait pas pareil on s'enverrait pas des bombes en fait
j'en suis
sûre moi ça que c'est pas dans notre inconscient collectif de femmes bon après
évidemment qu'on a besoin des hommes pour l'ingérence et tout et
on a besoin d'hommes et toutes les femmes ne sont pas parfaites
et attention. C'est quoi toi ton style d'homme d'ailleurs
un télo mais le problème c'est que j'aime en règle générale les gens qui sont intello mais du coup qui sont très névrosés.
Ouais.
Et ça me retombe toujours dessus. Parce que moi aussi j'ai mes petites névroses donc il me faudrait parfois je me dis peut-être que il me faut un imbécile heureux.
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Qui va calmer mes névroses à moi.
Solide.
Ouais.
Un gars un peu ancré clairement. Sur terre et qui clairement. Te ramène qui part pas
ouais.
Ouais.
Mais après je n'ai pas vraiment de style. Je veux te dire déjà est-ce que j'ai un style entre homme et femme?
Ouais.
Je ne sais même pas.
Ouais. Tu te considères comme bisexuel?
Je me considère comme je pense sapiosexuel.
Ah ouais, c'est vrai?
Ouais.
Moi j'ai une théorie, j'y crois pas trop, j'ai l'impression
moi non plus j'y crois pas, tout le monde met des titres et tout.
J'ai l'impression qu'on est sapiosexuel avant d'être bourré. C'est-à-dire qu'évidemment quand t'es pas bourré, genre t'es attiré, t'as une espèce d'exigence d'intelligence de malade. Une fois que t'es bourré, c'est quand même un peu plus le physique quoi.
Bah moi je vais te dire une fois que je suis bourré
tout le monde.
Ouais, je ne fais plus trop de différence. Et je pense que chacun a son a ses atouts. Et après j'aime beaucoup les gens névrosés. J'aime bien les gens un peu nimpes.
Ouais.
C'est chiant les gens qui font tout bien, qui sont parce qu'en fait personne n'est normal. Tout le monde est un peu fou. Mais donc les gens qui sont considérés comme normaux, c'est juste des gens qui refoulent leur folie. Donc il y a un problème encore plus grave que les gens openly fous.
Ouvertement
fous, je les préfère.
Non, fou c'est bien, mais il faut faire attention à ce qu'en effet, c'est vrai que
faut être fou mais sain.
Ouais. Bienveillant. C'est ça ce qui est bizarre, c'est que le problème, c'est, j'en discutais avec ma mère récemment, parce que justement, je sais plus, j'avais rencontré un gars, et je disais, ouais, mais il est fou, mais elle me disait, oui, mais tu peux pas être avec un mec normal. Elle me disait, en fait, il faut un fou, mais il faut un fou quand même assez joyeux, pas un fou trop dépressif.
Ouais, parce que ça. Non, mais de toute façon, ça c'est sûr.
Ouais.
Et parce que moi, ça me fait sombrer. Mais après, moi, j'ai besoin de quelqu'un de très joyeux.
Là, t'es amoureuse en ce moment?
Non. Mais je suis amoureuse de l'amour.
Ouais.
Non, mais là, je me considère très jeune. Mon travail me prend énormément de temps.
Ouais.
J'ai pas forcément de temps émotionnel à consacrer à quelqu'un. Ouais. Mais après, il n'empêche que je m'amuse beaucoup.
Et comment tu fais pour séparer parce que je suis sûre que tu dois faire de l'effet à plein d'hommes et de femmes et plein de gens, mais que justement, dans des situations professionnelles, Est-ce que tu arrives à séparer comment, genre justement, je me dis les Xavier Niel, etc. En fait, votre complicité fait qu'on a envie d'avoir une histoire d'amour, bon peut-être pas.
Bien sûr,
Xavier
non, mais non.
Mais tu vois, est-ce que justement avec des clients ou avec des gens dans le travail, comment tu fais pour mettre
professionnellement, c'est la friend zone immédiate.
Ouais, ouais, ouais.
Ah ouais, non, mais jamais. Je pense que je pourrais me. En fait, avec Julia, on a développé cette espèce de truc de quand on s'adresse à des hommes, on se masculinise vachement.
Ouais, ouais, ouais.
C'est vraiment nos poteaux.
Ouais, ouais, ouais.
Genre limite, on va commenter. Enfin, on parle de foot, quoi. Enfin, non, mais on se masculinise au max. On n'a pas du tout envie de rentrer dans ce genre de relation avec les hommes dans le pro. Les femmes, c'est plus on va les mettre en copine.
Ouais, oui, voilà. Ouais.
Et les hommes en copains. Vraiment, on arrive parfaitement à se mélanger aux deux. On est les bonnes copines. Friend zone totale. Impossible d'être dans la séduction, je n'y arrive même pas. Dans le professionnel. Ça me dégoûte, ça me fait peur.
Mais c'est trop bien, c'est trop sain. Moi, le problème, c'est que justement, dans les métiers du spectacle, t'as beaucoup de rencontres qui se font un peu à des fêtes ou des machins, où t'es un peu beau.
Mais carrément.
Tu vois, là, c'est pas.
Bah, moi, dès que je sens qu'il y a une ouverture professionnelle, je friend zone.
Ah ouais.
Même si, la plupart de nos clients, on les a rencontrés bourrés en soirée, je vais être honnête. À des soirées, tu parles à quelqu'un, trop sympa, raconte, tu fais quoi dans la vie. Je bosse pour telle marque. Eh, hey, j'ai une agence. Viens, on bosse ensemble. Ok, go. Et mes friend zone direct. Dès que je sais qu'il y a un potentiel taf à la clé, non, j'ai pas envie de mélanger ça. Je l'ai fait une fois. Je me suis tapé des gens sur mon lieu de travail.
Ouais.
Quand à l'époque où j'étais salariée. Et franchement, c'est chelou.
Ouais.
Et après, avec les
mais
clients, je me suis dit,
c'est inévitable.
C'est inévitable. Et à la fois, c'est super cool.
Ouais.
C'est trop drôle.
Bah oui, puis
en vrai, t'arrives au taf, t'as un petit truc dans la salle de réunion, tu vois.
Évidemment. Ah ouais.
Mais, non, c'est trop dangereux, franchement. Tu sais, c'est, les gens, si tu leur fais du mal, et quoi, si je brise le cœur de quelqu'un qui peut m'apporter tellement d'argent, je vais perdre cet argent. Hors de question.
C'est clair. Hors de question.
Et je vois plein de gens avec Julia qui nous approchent et on se demande tout le temps.
Est-ce que c'est
quelqu'un qui nous kiffe ou est-ce que c'est quelqu'un qui veut qu'on lui donne du taf?
Ouais.
Et franchement, c'est trop stressant.
Ouais.
Enfin, je sais pas, ça fait vachement peur. Du coup, on se méfie grave.
Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Et ça, parfois, c'est, moi, j'ai ça, même là, je crois, avec le podcast, parfois, je me dis, mais attends, les mecs, ils veulent passer dans le podcast? Ou en fait, ils veulent me ken
mais
ou est-ce que...
Ouf.
Mais bon, en même temps, je me dis, c'est cool. C'est que ça va, c'est bien d'être dans cette position, ça veut dire que les choses vont dans le bon sens et que s'il y a une ambiguïté là-dessus et que à mon avis peut-être des mecs ont l'habitude, enfin en fait je pense que des mecs ont cette habitude et ont l'habitude certainement d'en profiter. C'est-à-dire que c'est ça l'abus de pouvoir en fait, c'est de faire croire que tu vas donner une opportunité et de ken la personne.
Clairement. Mais moi je me suis déjà retrouvée à ce genre de situation plein de fois.
Ouais.
Quand j'étais plus jeune, je m'étais fait un peu repérer par-ci par-là par des chaînes de télé ou des trucs comme ça.
Ouais.
Et un jour, enfin, j'avais eu un tournage pour une grosse émission.
Ouais.
Et le producteur était un peu en mode, j'arrivais pas trop à comprendre où il voulait en venir. Et à un moment, il m'a dit, bon, je te propose qu'on couche ensemble.
Ok. Oh putain.
Et après, voilà, on n'est pas obligé, c'est pas obligé de mener à quelque part, mais en fait. C'était en vrai ça aurait pu être consentant parce que ce mec était super cool, mais je me suis dit ok, donc en fait depuis tout ce temps il m'a proposé cette opportunité parce qu'il voulait me ken.
C'est ouf hein.
Et j'ai eu trop le seum, je me suis dit mais non.
Et t'as dit non?
Ah, j'ai dit non, de toute façon j'étais en couple à l'époque, je me suis dit mais hors de quest, bouge. Mais putain, relou. Mais de toute façon, le sexe, ça, c'est tellement, ça provoque des guerres.
Ouais, le sexe, ça fout la merde, la zone grise et tout est, c'est-à-dire, c'est très compliqué et à la fois, t'as des mecs qui sont des prédateurs et à la fois, moi, je me méfie, moi, de ma tendance prédatrice, parfois.
Mais bien sûr, moi aussi, j'ai une tendance prédatrice. Enfin, parfois, je me dis, oh mon Dieu, Élise, ne sois pas la personne que tu aurais haï si elle était en face de toi.
C'est clair.
Enfin, je vais jamais être relou avec quelqu'un, mais parfois je me dis bon, j'ai envie de faire un main plat.
Et en même temps, j'ai l'impression que on a laissé passer parce qu'on a subi le patriarcat pendant tellement d'années que j'ai l'impression que là, on a en fait une espèce d'âge d'or d'Éden où on peut leur faire subir des trucs. On se dit franchement, on est juste en train de réparer.
Oui,
quoi.
Non, mais je me dis parfois j'ai envie d'être et aussi d'être cette énorme chineuse, mais très respectueuse et très sympathique, genre de changer la donne du prédateur, de faire des prédateurs en fait adorables, d'adorables. Prédateur. Et à la fois, je suis pas vraiment prédatrice. Ces derniers temps, j'attends qu'on vienne à moi.
Ouais.
Ouais. Ça y est.
Ouais, mais c'est.
Enfin, j'ai jamais été très prédatrice en vrai. Ouais. Mais je suis très entreprenante.
Ouais.
si je veux quelque chose, je déteste ce moment où on ne sait pas si on va se pécho.
Ouais.
Moi, je dis les choses, je suis en mode, bon, on se pécho.
Ouais.
Et ça marche.
Bah, bien sûr, ça marche.
C'est super, ça va droit au but.
Mais évidemment.
Voilà.
Mais ça, c'est génial, en fait, d'avoir un métier qui soit aussi rationnel. Parce qu'au moins, en effet, tu peux pas tomber amoureuse de tes clients comme ça. Moi, tu vois, je te disais, en fait, c'est vrai que si je travaille avec quelqu'un tous les jours à développer un projet, à écrire, à raconter nos vies, à rigoler, je trouve ça très difficile de pas... je crois que je suis tombée amoureuse. J'ai l'impression qu'il faut un peu... Je crois que je suis un peu érotomane, dans le sens où je me dis...
C'est en plus.
Bah, c'est-à-dire que le mec avec qui je faisais le podcast et qu'il ne le fait plus aujourd'hui, bon, tant pis, si jamais il écoute ça, mais je crois qu'il est un peu au courant. Je me demande si, en fait... Bon, après, il était maqué, tu vois, mais le fait de... enregistrer ensemble, en plus on montait ensemble, en plus je disais des conneries, j'étais là genre non ça on coupe, il disait non laisse, c'est bien, donc en fait il me donnait confiance, il riait à mes blagues, il me rendait des services, il était très gentil, il disait faut qu'on crée des goodies et qu'on prenne des photos et qu'on mette des t-shirts avec ta tête dessus, j'étais là genre oh mon dieu.
Mais attends, mais vous aviez une relation
sexuelle? Et non,
on
n'est jamais passé au sexuel, mais par contre en fait on s'écrivait un peu tous les jours, on se croisait, en plus il faisait de l'humour donc on se croisait sur les plateaux, et donc en fait pour moi, on avait une espèce de super amitié.
Mais attends, on connaît ?
C'est qui ? Non, il n'est pas connu. Mais par contre, j'étais un peu jalouse. Moi, j'étais un peu jalouse de tout ce qu'il faisait en dehors de ce qu'il faisait avec moi. Donc, quand même, mais je sentais que c'était pas bien, donc j'essayais de le cacher, de le garder pour moi. Et en fait, du moment où il y a eu le confinement, ça a explosé cette histoire.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu une vraie séparation, il y a eu un vrai retour de réalité, un backlash, où en fait, la réalité, c'est qu'il avait une meuf.
Ah
et que, tu vois.
C'est une réalité très relou.
Et c'est une réalité, voilà. Et qu'en fait, là où on aurait pu, en fait, faire passer le confinement, parce que après tout, on bosse ensemble et qu'on est potos, sauf que c'était devenu un point de fusion et d'affectif tel, qu'en fait, non, c'était insupportable. Et je pense que, moi, j'ai un peu, pas pété les plombs, mais, et c'est que aussi j'avais envie qu'on aille plus loin dans le podcast et qu'on avait des envies différentes et que lui il le faisait plus par plaisir et que moi j'étais en mode contactons tous les journaux de France. donc voilà, mais ouais, ça c'est,
mais c'est très dur de bosser avec quelqu'un en binôme, surtout si c'est si c'est un mec et que toi tu kiffes les mecs, c'est chaud.
Oui, alors qu'en plus, en effet, comme tu dis, toi, t'as un binôme successful avec Julia. Moi, j'ai la chance d'avoir un binôme successful avec ma metteur en scène, Adrienne Ollé, qui met en scène mon spectacle.
Génial.
Et c'est, j'ai l'impression, beaucoup plus facile. Je sais pas ce que t'en penses.
De toute façon, quand tu es vraiment pote...
Ouais.
Après, entre meufs, ça peut être très compliqué aussi.
Oui,
hein. Il peut y avoir beaucoup de crépage de chignon.
Ouais.
Nous, avec Julia, on a eu nos moments. Bon, après, on se connaît depuis qu'on a 16 ans.
Ouais.
Donc, c'est la base.
Ouais.
On est comme un vieux couple.
Ouais.
Mais c'est beaucoup plus facile, oui, quand le truc est clair dès le départ.
Ouais.
Le genre, tu es le sang, c'est tout.
Oui, c'est ça.
Ciao.
Et aujourd'hui, vous êtes toutes les deux dans votre entreprise, en fait, de conseil, et vous engagez des gens. Mais il y a une hiérarchie, donc c'est plus simple. C'est vous, il y a des gens qui bossent pour vous.
Oui, voilà.
Nous, on
a beaucoup de mal avec la hiérarchie. La seule fois, on a été salariés toutes les deux ensemble. Notre patron, on le faisait pleurer tout le temps. Enfin, vraiment, on est monstrueuse. Minute Buzz.
Minute Buzz, oui.
On est un peu ingérable. Donc là, on a monté notre truc. On a un modèle trop cool, mais tu vois, une fois de plus, on est tellement fusionnel qu'on a beaucoup de mal à recruter.
D'accord.
C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre des gens entre nous. Et ça, c'est notre défaut. C'est qu'on n'arrive pas à faire confiance aux autres. Mais après, notre modèle nous va très bien parce qu'on bosse avec énormément de freelance.
Ouais.
Parce qu'en fait, si on recrute quelqu'un en CDI et qu'on doit le voir tous les jours, ça va pas être possible. On a déjà essayé. On a besoin d'être que nous deux. Donc, on bosse avec énormément de freelance qu'on place sur des missions. On a un modèle assez intéressant, qui est trop cool d'ailleurs.
Okay.
Et je trouve que j'ai l'impression que c'est l'avenir.
Ouais.
Parce que quand t'as des salariés...
Ouais.
Bon, c'est horrible, mais... Enfin, non, c'est pas horrible en fait. Quand tu as des salariés en CDI, c'est un peu un cercle vicieux parce que tu dois leur verser un salaire tous les mois, ce qui est super, ils le méritent.
Ouais.
Mais vu que tu as cette obligation, ce couteau sous la gorge, tu es obligé d'accepter tous les clients et donc de faire de la merde forcément à un moment et donc de te perdre dans ton intégrité à toi. Alors que là, on accepte les clients qu'on veut et qu'on aime, avec qui on aime bosser, qui ont des valeurs qui nous conviennent parce qu'on n'a aucun impératif financier derrière, c'est juste du kiff.
Ouais.
Et avec ça, on monte des équipes qui vont être intéressées par le projet, qui vont kiffer faire ça et qui vont être trop bien payées parce que vu qu'on n'a pas leur payer un salaire tous les mois, sur ce coup-là, vu que c'est du one-shot, on peut les payer grave bien. Et vu qu'il y a de plus en plus de freelance, moi j'ai l'impression que le modèle freelance, d'ailleurs l'État, hello, qu'est-ce que vous attendez pour... leur donner du chômage, la sécu, tout ça, parce que c'est le nouveau modèle. Enfin, c'est super comme modèle, moi j'adore. Et ils kiffent trop nos freelances. Ils peuvent faire plein de projets en même temps, ils sont pas cloqués dans une boîte avec une hiérarchie, avec des after-work de relou. Ouais. Ils font ce qu'ils veulent. Super.
Mais oui, et je vois ce que tu veux dire. C'est un truc un peu voilà du désir vraiment et de pas être enchaîné. Mais justement, je me demandais, est-ce que toi, comment t'arrives à gérer toutes ces casquettes de à la fois chef d'entreprise, mais aussi d'influenceuse et sur Insta, la liberté où si t'as envie d'aller dire à Vogue d'aller se faire enculer, genre vraiment, t'y vas pas par quatre chemins. Et je me dis, est-ce qu'en fait ça, tes clients, ça les excite ou ça leur fait peur?
Eh ben, franchement, c'est un peu des deux.
Ouais.
Ça les excite et à la fois ça leur fait peur et à la fois, moi je préfère bosser avec ceux que ça excite quoi qu'il arrive.
Ouais.
Donc ceux qui ont peur, bon bah bouge.
Ouais, ouais, c'est clair.
Je te veux, hop, dans ma team.
Mais est-ce que genre justement, t'as une équipe juridique derrière pour pas
j'ai pas d'équipe juridique, je suis moi-même ancienne juriste.
Mais oui.
Donc déjà, je sais à peu près
jusqu'où ça peut aller
ce que je peux faire. Ma mère est avocate, donc souvent elle me rappelle mes droits quand je fais des stories. Elle me dit, Élise, ça c'est 75 000 euros d'amende, enlève. Je suis en mode, oh mon dieu, ok, pardon,
tu vois. Génial.
Mais non, mais de toute façon, j'essaie toujours de faire gaffe. J'ai l'impression que j'arrive à tu vois, je vais aller défoncer Vogue, mais je vais jamais être dans la méchanceté gratuite et pure, où j'essaye toujours de garder une mesure.
Et puis c'est jamais personnel, c'est jamais contre.
C'est pas personnel,
c'est un groupe.
J'ai pas de haine en moi.
Ouais.
J'ai juste la dalle et j'ai envie que ça change. C'est pas vraiment une envie de détruire, c'est une envie de changer.
Ouais,
donc,
bien sûr.
Je pense que les gens ils le ressentent même quand je les défonce Vogue. Tu vois, il y a les journalistes de Vogue qui m'envoient des messages parfois et qui me disent bon, oui. D'accord. Ouais,
mais oui, bien sûr.
Ça les saoule parce que c'est leur travail.
Et c'est que comme ça que ça va changer.
Mais voilà, ils se rendent compte peut-être qu'il faut changer des choses.
Mais carrément.
Que, voilà, le peuple en demande plus.
Évidemment, et heureusement que t'es là, mais c'est trop bien. T'es une justicière. et je kiffe trop. Et est-ce que c'est pas compliqué politiquement? Parce qu'à la fois, justement, t'es derrière Glucksmann avec la cause des Ouïghours, et à la fois, il y a Mounir Majoubi.
Bien sûr. Bah, moi, j'en ai marre. Moi, depuis que je suis petite, je ne comprends pas du tout la droite et la gauche. Je m'en branle. J'en ai rien à foutre. Je disais tout le temps à mes parents, mais ce mec à gauche, il a dit un truc super. Et ce mec à droite aussi. Alors, pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas faire une team et être potes? Ensuite, j'ai étudié les sciences politiques et j'ai compris que c'était nimp. Et ça m'a dégoûté de la politique. Et donc, j'ai décidé que s'il y a des gens que j'aimais, déjà en tant qu'humain, j'allais les kiffer, ok? Et je m'en fous. Donc, je peux être pote avec des gens du gouvernement, parce que, en vrai, ils m'énervent. Je leur chie dessus très souvent en story. Mais pour autant, il y a des membres de ce gouvernement que j'adore.
Attal.
Et que je trouve génial, Gabriel Attal. Je trouve qu'il incarne la jeunesse, l'avenir. Je suis pas toujours d'accord avec lui, il le sait. Je n'hésite pas à lui envoyer en pleine face, il adore. Enfin, je me travestis pas. Je suis pote avec ceux que j'aime. Il y a des gens je les hais, il y a des gens je les kiffe trop. Mais ils savent que je vais pas. C'est pas politique pour moi. C'est pas des relations politiques, c'est juste j'aime l'humain, j'aime le mec, j'aime ce qu'il incarne ou elle. Mais s'ils font des trucs que j'aime pas, je leur dis direct et je vais jamais m'en excuser.
Et tu penses pas qu'un jour tu finiras par être rattrapé par un parti dans le sens vraiment, enfin genre moi je vois
je n'aime pas
députée européenne quoi.
Ouais, mais je n'aime pas le concept de parti. Pourquoi? Parce que Bourdieu disait, alors je cite des auteurs,
je t'en prie.
J'avais vraiment un moyen endroit, surtout la matière de Bourdieu. Bon. Mais Bourdieu disait un truc marrant. Il disait que la politique, quand tu entres dans le champ politique, ou dans n'importe lequel, mais bon, c'est surtout pour la politique, t'arrives, t'as plein d'idées, t'es en mode, je veux changer les choses, mais en fait, quand tu rentres dans un parti, tu rentres dans une entreprise, t'arrives, t'es comme, imagine la poste, t'arrives, t'es postier, et ton but, c'est d'être PDG, donc tu vas tout faire pour être PDG, et tu perds ton recul, et tu oublies pourquoi t'es là de base, et tu deviens un bolos, comme ceux qu'on voit aujourd'hui. Beaucoup, tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils foutent là?
Ouais, mais en tout cas, ce qui est génial chez toi, c'est que t'arrives à la fois avoir la dose de caring et de what the fuck. C'est-à-dire qu'en effet, tu vas partager, tu vas aller chez Hanouna et affronter Gabriel Attal, et derrière, moi, je te suis toutes tes stories, donc je vois les trucs à l'Élysée et tout, genre, là, je suis. Et en même temps, je me dis, wouh! Et en même temps, avec un vrai engagement féministe, et moi, je sais qu'à chaque fois, vu que je suis aussi engagée féministe, à chaque fois que j'émets la moindre contradiction, on me tombe derrière comme une ouf. Donc, je me dis, t'as dû recevoir des messages de, et pourtant Darmanin et les accusations de viol, etc.
Mais bien sûr. Ouais. Mais de toute façon, moi, je prône vraiment un truc de genre, on a le droit d'être contradictoire. On est des humains. L'humain est un caca-boudin. Donc, on a le droit d'être des caca-boudins. Et parfois, de dire, enfin d'être contradictoire dans ses pensées. Et j'en ai marre de ce pas le droit à l'erreur. Évidemment que moi je vais être la première à défoncer des mecs comme Darmanin, mais ça veut pas dire que tout le gouvernement, du coup tout ce qu'ils vont faire c'est de la merde.
Ouais, bien sûr.
Ça y est, on se calme. Mais là je prends l'exemple du gouvernement, mais c'est comme ça pour tout. C'est pas parce que il y a un mec dans une équipe qui a fait n'importe qu'il faut tège toute la famille, enfin tout le reste, tu vois.
Mais et c'est vrai que j'ai l'impression que tout ce que tu touches ça vient de l'or. C'est-à-dire qu'en si meuf, enfin c'est quand même c'est beau quoi, c'est un truc précieux, genre il y a une espèce de feu palpitant en toi, il faut absolument que personne l'éteigne. Tu vois, là c'est la mère juive qui parle, mais j'adore. J'ai peur qu'un homme arrive et genre te brise ton cœur et que d'un coup cette petite flamme, genre non, il faut vraiment que tu fasse attention, parce que genre tu décides de te mettre au podcast comme ça, pourquoi pas, et genre ton podcast devient genre numéro 1 Spotify. Enfin, c'est quand même un truc assez ouf quoi.
Ben c'est cette espèce de magie qu'on a avec Julia, franchement. Moi seule, bon je suis sympa et tout comme ça, mais je ne vais nulle part si j'ai pas une Julia, par exemple. Enfin, pas par exemple, c'est elle qui, enfin, on est à une complémentarité qui fait que quand on a un projet, on l'aime tellement. Enfin, en fait, c'est pas qu'on transforme les trucs en or, c'est juste qu'on fait tellement un truc qu'on aime que de base, si on n'aime pas le truc, on le fait pas. Mais si on le fait et on l'aime tellement, on va tout donner pour qu'il soit le number one des one. On a un peu aussi un truc d'ego de genre.
Bien sûr.
Quoi, moi, je suis pas numéro un. Comment ça?
Ouais, bien sûr. Il y avait de l'affichage dans la rue pour coming out. C'est...
Oui. Ouais, c'est... Clairement. Mais là, on est très coco aussi dans le délire.
Ah ouais.
La bar mitzvah de nos enfants, ce sera au Stade de France, tu vois.
Bien sûr.
C'est notre petit côté. Passer de la com, quoi.
Mais ouais, bien sûr. Et le coming out, c'était plutôt donc un projet de cœur, de passion. Comment l'idée
est venue? Très honnêtement, l'idée est venue de Julia qui est venue me voir un jour et qui m'a dit: meuf, franchement, c'est trop dur d'être lesbienne. Enfin, c'est trop dur, mais c'est trop dur de, en tout cas, de devoir l'assumer. Enfin, pour tout le monde, hein, pas forcément pour elle. Ça s'est très bien passé. Mais comment ça se fait qu'on n'y ait pas? Il n'y ait pas de modèle en France. Et là, j'ai réfléchi, je me suis dit, mais oui, exactement, tu as raison. Ben viens, on en crée. Créons ces modèles. C'est ce qu'on faisait avec Fresh. On voulait créer des nouveaux rôles modèles. Et ben là, c'est vrai que le sujet LGBT, il nous touche tout particulièrement. Nous, on est dans une bande d'amis où il y a plus de gens qui sont gays. Que de gens qui sont hétéros. Et on voit que surtout dans la communauté juive, enfin dès que t'appartiens à une communauté, c'est plus compliqué que
bien sûr, musulmane aussi.
Musulmane, je t'en parle même pas. Donc créons ce truc, et en fait on a adoré le faire. Et on s'est rendu compte que toutes les personnes qu'on interviewait, c'était la première fois qu'ils racontaient leur coming out de leur vie. Et pour eux-mêmes, c'est un truc de ouf. Franchement, Mounir Majoubi, il a pleuré, tu sais. Le mec est député ministre.
J'ai pas encore terminé l'épisode. Je l'écoutais là en venant. J'ai écouté celui de Marie Papillon et de Billy Sally, et qui sont très good vibes, très feel good. Et Mounir, mais là, justement, j'étais en chemin et j'écoutais. Je trouvais génial ça.
Ben c'est ça, et on se dit putain, le mec il est en politique, et on a envie totalement de casser ce truc. On lui a dit tout de suite, je t'explique, t'es pas là pour vendre
La
République en marche. T'es là parce que t'es un humain qu'on trouve chambé et que t'as une histoire, ce qui est sûrement intéressant à raconter, parce que et tu viens d'une famille musulmane, t'es en politique, tu es gay, c'est super. Et ben j'ai adoré parce que il est sorti de son personnage de politicien et il a mis sa casquette d'humain. Et ouais, voilà. Bon, c'est trop bien. Franchement, ce projet, on l'aime trop. Là, on fait la saison 2. Je kiffe trop. Et le podcast, j'adore.
Ouais, c'est cool. Hein. C'est un super média de pouvoir aller justement dans la longueur, quoi.
Mais grave.
Ouais, c'est vraiment très chouette.
Mais même là, avec Julia, on est peut-être en train de se chauffer pour faire d'autres podcasts. Je sais pas.
On
pense trop de choses, il faut qu'on les dise.
Ben oui. Non, c'est vrai qu'il y a toujours. Quand on commence un, t'as envie d'en faire 10 000. De podcast. Alors ça c'est l'enfer, moi toutes les semaines j'ai envie de faire un nouveau podcast, j'ai envie de faire un podcast sur l'écriture du scénario, où justement j'essaye justement en ce moment d'écrire une série, et je me dis c'est tellement dur, j'aurais besoin genre d'enregistrer vocalement mais toutes les étapes de la construction, tellement c'est compliqué. Et à la fois au début, mais finalement je l'ai pas fait, je voulais faire aussi un podcast mais où on reconnaissait pas les voix, c'était un projet un peu compliqué sur les actrices, où en fait post Me Too, où je trouve qu'en fait t'as Adèle, heureusement qu'il y a Adèle quand même qui a pris la parole avec Média Partout, mais sinon putain on est quand même sur des ambiances de My One, de machin, de trucs assez flippants.
C'est vrai qu'on est sur des ambiances, mais moi j'ai l'impression que là il y a toute une... En fait on s'éloigne, en fait les réseaux sociaux nous font nous éloigner, enfin sur ça là, hein, par exemple sur Adèle Haenel, c'était super, parce que la fausseur, moi j'étais en mode yo go girl,
grave.
Mais après, non mais moi j'en ai marre parce qu'en fait on se rend pas compte, mais avec toutes les polémiques qu'il y a sur les femmes, sur les réseaux sociaux, de genre, elle, elle a dit ça, et elle, elle a dit ça, non mais c'est de la false. Bon bah, ok, mais en attendant, on se détache totalement de l'objectif qui est quand même avoir les salaires les mêmes. Mais les mecs, ils kiffent ça.
Ouais, bien sûr, c'est
mais
de c'est se déchirer.
Qu'on fait gagner, hein.
Mais bien sûr, c'est pour ça, ça sert à rien de se déchirer entre femmes, quoi. C'est le patriarcat qu'il faut faire tomber.
Mais de ouf.
Mais en tout cas, mais c'est symptomatique du fait que la parole des actrices, et putain, je sais, il n'y a pas une actrice en France qui a pas une histoire et je me disais
ouais,
il faudrait
tu vois, regarde, c'est con. Ils ont refait le comité des Césars là.
Ouais ils ont
tu regardes qui y a comme meuf. Tu crois qu'il y a une meuf connue des actrices qui s'est chauffée pour le faire à part Marina Foïs.
Bah
franchement elle se bouge pas le cul.
Non.
En fait moi j'en ai marre. Elles j'en connais plein des actrices qu'est-ce qu'elles branlent.
Mais non mais elles ont peur, elles ont pas envie.
Elles ont peur, elles ont pas envie. Mais en fait
et elles sont pas d'accord. Quand tu vois Berko qui soutient Deneuve, quand tu vois Kiberlin au César, qui est-ce qu'on va pouvoir continuer à travailler. C'est-à-dire qu'en fait elles, pour moi elles sont déjà foutues.
Oui mais moi quand il y a un truc qui m'énerve, je me dis pas bon bah de toute façon c'est peine perdue, j'ai peur. Je me dis bon bah si je deviens la patronne de ce truc, il y aura plus. Donc ça y est. Moi, je veux voir des actrices hyper connues, des icônes de notre génération, qui vont se dire « Oui, moi, je vais aller à toutes les réunions reloues du comité des Césars et je vais changer les choses.
»
Il faut que les gens agissent. Et les gens qui ont de l'influence, là, ils commencent à me saouler parce qu'ils me répondent à chaque fois « Oui, mais moi, je fais pas ça pour ça, c'est pas mon rôle. » Oui, bah désolé, mais en fait, on est en 2020, c'est devenu ton rôle. Tu n'as plus le choix, ça vient avec ton métier. C'est horrible, c'est trop relou, mais ça vient avec ton métier. C'était avant, c'était passé dans public cul nu sur la plage. Maintenant, c'est juste, tu dois l'ouvrir, tu dois choisir les combats qui t'intéressent, évidemment. Mais tu ne peux pas, on ne peut plus. Les actrices, elles vont toujours partager des stories où elles se plaignent.
Oui, voilà,
regardez ce qui se passe. Oh là là, c'est trop relou ce qui se passe dans cet endroit du monde. Ok, bah tu fais quoi alors?
Non, c'est le métier le plus la peur de pas bosser, la peur de pas être choisie. Comme justement,
c'est
l'inverse.
C'est vrai qu'il y a une
vraie peur. Bah oui, puis tu n'es pas ton propre chef en fait. C'est ça le truc, c'est que tu dois être choisie et tu dois être choisie dans un milieu qui est encore majoritairement et masculin et ou même pas forcément masculin, mais misogyne où en fait la peur de passer pour une chieuse fait que ça sclérose tout et
J'espère que Adèle Haenel, elle a pas été impactée négativement parce que
Elle était déjà connue et après elle est avec Céline Sciamma et mais ce qui est marrant c'est que en France il y a à mon avis bien sûr que t'as plein de machos, moi j'en ai rencontré qui ont dit ouais Adèle elle continuera de bosser parce que de toute façon elle est trop connue le lendemain des Césars la plus grande agence américaine l'a recrutée.
Et c'est les Américains ils font nimp, attention Trump et tout c'est de la force mais
Là c'est Biden qui
Mais je veux dire bon c'est quand même un pays où il se passe des choses parfois tu te dis mais qu'ébranlos, mais ils sont quand même en avance sur la culture je trouve.
Oui toujours.
Tellement en
toujours,
avance.
Toujours. Et c'est
sur
vrai.
Sur la progression même au niveau social, la diversité dans les séries, dans les films, dans les émissions de télé, enfin c'est fou. Qu'est-ce qu'on fout en France? Pourquoi on n'est pas capable de dire, dis-moi, ça marche dans un pays qui est beaucoup plus riche que nous quand même, pourquoi est-ce que nous on fait pas pareil?
Ouais, c'est il y a plein d'histoires.
Sur la question des femmes, en fait, si tu regardes.
Ah bah bien sûr, 10 000 fois
des leaders
féminines
féministes là-bas, mais il y en a, des centaines.
Mais oui.
Ah non, qui arrivent, et ce, depuis 20, 30 ans.
Ah, mais complètement. Bah, les suffragettes, non, chez eux, t'as vu la série Miss America avec Kate Blanchett,
non,
elle est trop
tout
bien.
Le monde de regarder.
Trop bien, tu vas kiffer. Et oui, non, c'est plus, c'est beaucoup plus ancré. Non, en France, en plus, le cinéma, enfin, tu vois, les années 60, en fait, tout le truc, justement, soi-disant de libération, mais avec des actrices qui jouent des rôles de coconne et des Brigitte Bardot. Enfin, en fait, tout ce truc de, ce culte
même,
de la beauté française.
Bien sûr, mais puis même, tu regardes les comédies françaises qui sortent là, c'est très grave.
Ouais.
Franchement, elles sont toutes à un moment, soit homophobes, soit sexistes, soit racistes.
Ouais.
Tu te dis, mais on a encore besoin de ça pour faire rire. Il y a que ça que vous savez faire, les gars. Genre, et c'est fait par des cums. Et c'est tout le temps.
Est-ce qu'il y a des moments où t'as peur?
Oui, mais moi je me chie dessus tout le temps. Attention, je suis une grande angoissée. J'ai toujours peur, mais à la fois, je dirais que professionnellement, j'ai vraiment gagné confiance en moi. Donc, j'ai plus trop peur. Enfin, je me dis, au pire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai à perdre, vraiment? Au pire, c'est pas grave. Ça, c'est un truc de ouf à partir du moment où tu te dis, au pire. Il se passe pas vraiment un truc de ouf si c'est de la merde ce que je fais. C'est trop bien, ça change tout. Tu n'as plus peur. Je vois tout ça comme un jeu. Moi, je joue un jeu, là. Le jeu de la vie. Ce que ma mère me disait toujours, et j'avais envie de l'assommer quand elle me disait ça, en mode, Élise, vois l'école, elle me disait, l'école c'est un jeu, vois tout ça comme un jeu. Je disais, mais t'es chiante, arrête de me dire ça, c'est pas un jeu, c'est horrible. Et en fait, quand tu le prends comme un jeu, c'est vrai que, en fait, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Ouais. L'enjeu, bon, évidemment, c'est de gagner de l'argent et de pouvoir avoir un toit et mener une vie décente.
Ouais.
Donc ça, c'est vraiment toute une partie galère.
Ouais.
Mais alors, une fois que t'as un peu ce petit rythme de croisière, bon, bah, tu joues.
Bah ouais, bien sûr. Non, non, tu t'amuses. Ce qui compte, c'est garder, avoir de l'envie, avoir de la passion, se battre. Et qu'est-ce qui peut parfois te faire perdre confiance ou te faire perdre espoir ou...
Ce qui me fait perdre confiance ou me fait perdre espoir, c'est les gens méchants.
Mmh.
Je suis vraiment un bébé, je suis très bisounours.
Non, non.
Enfin, je suis toujours coup de gueule et tout, mais j'ai vraiment la phobie des pestes, la phobie des gens méchants.
Ouais.
J'ai envie d'être méchante avec eux. Et parfois, je suis vraiment un monstre avec eux. Je suis encore plus méchante. Genre, je me rappelle une fois, il y avait une petite, j'étais directrice de camp scout.
Ouais.
Et il y avait une petite, j'apprends le dernier jour du camp, il y a une petite qui est en pleurs et qui me dit « Je me fais victimiser depuis le début du camp, depuis le début de la colo par une autre meuf. » Et donc elle me raconte tout, qu'elle écrivait sur les murs dans la douche que c'était, c'était, je sais plus son prénom, mais c'était genre machin truc est une pute. Bref, un des trucs horribles.
Ouais.
J'ai pris la petite harceleuse et je pense que je lui ai fait se faire caca dessus.
Mmh.
Tellement, mais je m'en foutais, elle avait 12 ans, hein, mais j'étais un monstre. Tellement ça me rend dingue. Et j'ai peur de ces gens.
Mmh.
En fait, j'ai souvent peur de me retrouver face à des gens comme eux.
Mmh.
Même si je sais que de toute façon, je vais savoir les affronter et que je m'en fous. En fait, ils ne font pas peur, mais j'ai quand même peur de me dire que ça existe. Je me dis, mais attends, c'est pas possible, on existe, enfin... J'ai pas du tout peur de prendre la parole en public et de, même si je suis face à des gens qui vont me dire, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu dis, je trouve que c'est de la merde. Mais le fait qu'ils existent, j'ai peur.
Je vois ce que tu veux dire.
C'est bizarre.
Si.
Et sinon, j'ai peur, mais j'ai peur de tout, moi.
Ah ouais?
Ben, j'ai peur de l'avenir. Là, j'arrive pas à me projeter à cause du confinement. Et franchement, ça me fait faire des crises d'angoisse folles. Je n'arrive pas à savoir ce que je vais faire dans 3 mois, mais moi, ça me terrifie. Dès que je sors avec quelqu'un, j'essaie de m'imaginer avec son nom de famille et ce qui va se passer dans 10 ans.
Bien sûr.
Et donc, si je peux pas faire ça, je romps tout de suite.
Ouais.
Donc là, ne pas savoir ce qui va se passer dans une semaine, ça me terrorise.
Ouais, non, le climat est carrément, moi aussi, c'est très anxiogène et puis c'est pas bon pour le bis, quoi, parce que tu ne peux pas te projeter, moi, tu peux rien prévoir, tu peux rien programmer, enfin, tu peux, enfin, ou alors il faut trouver ce qui va survivre à cette crise, quoi, mais c'est compliqué.
Horrible.
Ouais.
Et j'ai peur aussi, j'ai peur de ne jamais vraiment aimer.
Ok.
Énorme. Enfin. J'ai pas peur de ne jamais aimer, mais j'ai peur parce que là, dans mes relations, j'ai beaucoup de mal à admirer.
Ok.
False.
Non,
intense.
Mais je vois tout à
et
fait.
J'ai des relations avec des gens exceptionnels.
Ouais,
vraiment.
Ouais.
À chaque fois, je me dis, mais waouh. Franchement, j'ai que des gentils, que du trop cool. Bon, une petite névrose classique, mais des adorables personnes.
Ouais.
Mais juste, j'ai beaucoup de mal à être fan.
Je vois ce que tu veux dire.
Ça me saoule, je suis en mode, mais putain, mais meuf. Et parfois, je me dis, qu'est-ce que ça veut dire?
Mais je vois, mais c'est parce que t'as une espèce de flamme idéaliste, très pure, très intense, très intense. T'as une espèce de quête d'absolu immense.
Ouais, j'ai une quête d'absolu. Putain, mais c'est pas normal.
Non,
enfin, je crois
mais
que ça n'existe pas.
C'est beau, ça fait de toi une héroïne, mais c'est sûr que résultat en amour. Alors dans le sexe, à mon avis, ça n'entre pas en jeu parce
oui,
qu'au
ça
contraire,
du tout en jeu,
ça fait que l'éclatade n'est que.
Bien sûr, bien sûr.
Mais par contre, quand même, pour s'attacher à quelqu'un, c'est compliqué parce que ça crée en effet, t'as envie de vraiment de quelqu'un qui fasse rêver. Et c'est vrai que les gens sont souvent un peu décevants. C'est rare où les gens sont très intelligents, mais ils ont peur, ils ont pas de courage, ou ils sont dépressifs. Ou ils passent pas à l'action. Moi, parfois, ce qui me déprime, c'est justement les gens qui ont un peu un cynisme, qui sont un peu en dehors, qui disent « Ah, mais de toute façon, ça marchera pas. Enfin, »
oui,
j'ai besoin de gens qui y croient, quoi, en fait.
De ouf.
Vraiment. Ou alors, parfois, ce qui me fait un peu... moi aussi, je me projette, je me dis « Est-ce que je pourrais être... » J'ai peur des gens qui, de façon apolitique, dramatisent trop aussi ce qu'on vit en France. De par mon
vie,
tu vois.
C'est très ciblé.
Ouais, c'est-à-dire des artistes ultra gauchos et qui, résultat, sont persuadés qu'on vit en France dans la pire des dictatures. Je suis
ça me rend ouf. Je suis en mode, eh oh les gars, est-ce que vous êtes déjà allés autre part? Moi, tu sais qu'à chaque fois que je pars en voyage, mais alors, je tiens à répéter, je suis la première à me plaindre et à chier sur parfois le gouvernement quand ils font n'importe. Mais dès que je vais dans un autre pays, je me dis, mais putain, tellement bien la France. Mais j'ai tellement de chance. Franchement, on est allé au Japon avec Julia. Et on a appris que dans ce pays, les gens, ils doivent bosser jusqu'à 90 ans.
Ouais.
Parce qu'il n'y a pas de retraite.
Mmh.
Donc, ils bossent, les vieux, ils sont dans les stations essence. Et leur métier, c'est juste de tenir le tuyau pour les gens. Et pour ça, ils sont payés, mais 3 francs 6 sous.
Ouais.
Et nous, on a une fucking retraite. Moi, quand j'ai voulu monter ma boîte, j'ai eu du chômage. Mais vous savez que le chômage, pour moi, mais j'ai trouvé ça incroyable. J'étais pas du tout au courant. Je suis arrivée à Pôle emploi. Et la meuf m'a dit, vous allez toucher tant tous les mois. C'était genre, mais c'est rien, c'était genre... je sais plus, de la merde, mais c'était énorme pour moi. Enfin, c'était ouf.
Ouais.
Et j'y croyais pas. Je me disais, mais quoi? Donc là, je fais rien. Et pendant un an et demi, j'ai le droit à ça.
Ouais.
Elle m'a dit, de ouf. Mais j'ai fait des câlins à tout le monde.
Ouais.
Et bon, évidemment, tout est contestable toujours. Mais bon,
oui,
la
bien
France,
sûr,
on a beaucoup de chance.
Ouais.
Les femmes sont libres.
Ouais.
On est libres.
Ouais.
Fucking libres.
Ouais.
Dans des pays, c'est de la folle, s'inscrire.
Ouais. Ouais.
Ouais, voilà.
Mais ouais, oui, c'est non, sûr que trouver des gens que t'admires et c'est, donc ça, tu dis, t'as peur d'aimer parce que t'as peur de rencontrer de quelqu'un qui soit pas assez.
C'est pour ça que je te dis que parfois je me dis, est-ce que je suis sapiosexuelle?
Ouais.
Parce que je pense qu'en fait, sur le long terme, je suis attirée que par les gens que j'admire.
Ouais.
Intellectuellement. Vraiment.
Mais
c'est très dur à trouver.
C'est très dur, mais moi c'est pour ça que j'ai créé ce podcast, vraiment les mecs que je me disais mais comment et je trouvais ça injuste que ce soit particulièrement les femmes. Je disais putain mais les gars en fait en vrai j'ai l'impression qu'ils arrivent à tomber amoureux de femmes belles ou pas mais tendres, affectueuses avec lesquelles ils se sentent bien et ils peuvent passer et que nous on a je sais pas d'où ça vient ce côté que Prince Charmant, ce désir, ce besoin de un peu de Blanche Gardin, Louis C.K., c'est-à-dire de tomber amoureuse sans avoir même vu quelqu'un,
mais
juste quelqu'un qui te fait rire et qui te sauve.
Ouais, mais tu vois.
Ouais.
Alors, il m'est arrivé de ken des gens que j'admirais.
Ouais.
Et j'ai toujours été déçue. Parce que c'est vrai que l'image que t'as de quelqu'un sur les réseaux sociaux ou dans son métier.
C'est un fantasme.
Tu l'idéalises, tu fantasmes un truc de ouf, alors que dans la vraie vie, bon, c'est quelqu'un qui fait pipi et caca et qui pleure. Et tu sais qu'il y a toujours un personnage. Moi, je suis un énorme personnage, par exemple. Enfin, je suis très fidèle à ce que je suis sur les réseaux sociaux. Genre vraiment, c'est wham. Mais après, le moi profond. Je suis très scorpion, donc je montre pas vraiment le moi profond.
Ouais.
Mais le qui je suis pour de vrai. Bon, bah, mais bon, c'est pas très différent de qui je suis sur les réseaux, hein. Mais il y a très peu de gens qui connaissent. Donc, c'est forcé que ce soit ça pour tout le monde.
Ouais.
Donc, je suis déçue tout le temps.
Ouais, je vois ce que tu veux dire, ce truc de déception constante, je vois tout à fait.
J'ai plus ce truc de waouh, lui ou elle, faut trop que je me le fasse.
Ouais.
Tu vois.
Bah ouais, mais moi je trouvais que j'avais écrit grâce à toi, j'avais le mail de la porte-parole de Glucksmann ou celle qui bosse avec lui. Donc je lui ai écrit, j'ai envoyé un long mail en lui disant genre pourquoi je voudrais trop, je rêverais qu'il vienne dans le podcast parce que je me disais putain,
mais
Glucksmann, en plus d'être intelligent et d'avoir une parole importante, etc., qui fait évoluer les choses dans le bon sens, il est trop beau.
Mais oui, mais il est assez à la vie aussi. Moi,
les deux.
J'ai envie de me faire les deux en fait.
C'est un power couple de malade.
Oh, iconique.
Iconique, c'est un vrai
power
couple.
En plus, ils s'aiment, ils sont en mode, on s'aime.
Putain. Et ça fait rêver. Ça fait rêver parce que elle est aussi hyper, enfin, elle est devenue l'une des stars journalistes incroyables avec une espèce d'intelligence.
Et surtout, je trouve, je vais te dire, je suis rarement fangirl.
Ouais.
Mais quand je l'ai rencontrée, j'ai trouvé que c'était une meuf qui, elle est tellement en mode, oui, je suis comme ça, et va te faire foutre si t'es pas d'accord. Mais j'adore.
Grave.
Pas du tout dans le tménic, ce qui veut dire le zarma, comme on dit en français, j'adore. Les gens qui font genre, elle fait pas du tout genre.
Elle est pas fake, quoi,
Elle est elle-même.
C'est quoi ton mot, tménic? C'est du
tménic, c'est l'arabe.
Ah ouais, d'accord.
Ça veut dire, oui, non, parfois. Alors, je suis ashkénaze.
Ouais.
Mais vraiment, culturellement, je suis très tunisienne. Ça, mes parents sont que des amis, bon, beaucoup d'amis ashkénazes, mais très séfarades, donc on est très empreints de culture séfarade. Et tménic, c'est vraiment, les gens qui font genre, quoi, le nimp, tu fais croire que t'es quelqu'un d'autre, ou que tu dis nimp.
Ouais. Non,
ben,
mais
elle,
c'est
pas
vrai
du tout,
que
c'est trop vrai. Même Glucksmann, là, tu vois, sur ses prises de position sur Instagram, il pourrait être dans un truc de bon, maintenant que j'ai mon audience, je dois à tout prix tout faire pour qu'ils continuent à me suivre. Il s'en branle, il dit ce qu'il pense, et si les gens ils aiment pas, ils unfollow. Moi, j'adore.
Ouais, non, mais c'est lui qui écrit tous ses posts.
Il a un mec avec lui,
ok,
qui est génial.
Ah ouais.
Oh là là, un mec de ouf. Mais alors lui, une icône.
Ah ouais.
Franchement, trop stylé, sympa, intelligent. Très jeune,
Ils
sont rentrés sur un plateau télé.
Incroyable.
Il était dans le public, enfin vraiment tout est fou.
Ah ouais.
Bon bah enfin ouais non franchement
parce que les postes sont super déjà bon évidemment le graphisme etc c'est très bien foutu ça fonctionne bien en couleur etc mais même c'est bien écrit c'est coup de gueule quand ça doit l'être
après attention Raphaël Glucksmann il est plume hein c'est vraiment un philosophe enfin c'est un homme de lettres
ouais
et après il a ce mec qui bosse
sur Insta quoi
justement il a la touche Jones
c'est ça. Et puis j'ai vraiment beaucoup aimé récemment tout ce qu'il a fait par rapport à Charlie Hebdo et j'ai l'impression que c'était parfait que lui parce que tout le monde sait qu'il peut pas être raciste, il passe tellement de temps à dénoncer, je veux dire les commentaires, mais que voilà, qui s'en prenne à tous ces pays arabes qui condamnent la France parce qu'elle autorise les caricatures et qui sont pas solidaires, voilà, des Ouïghours. Et c'était vraiment, c'était vraiment assez chouette et assez rare hein, comme parole. C'était
moi, c'est fou quoi. J'ai vu ce post et je me suis dit c'est bon. Je l'aime. Super. Parce qu'en fait, on est dans un espèce de, les réseaux sociaux, t'as un espèce de mouvement en ce moment de, tout le monde se fout dans la merde, là. On s'enfonce dans des mouvements. On sait même pas ce qu'il y a derrière. On sait même pas ce que ça veut dire. On sait, et moi, le mouvement anti-Charlie Hebdo, je suis en mode, les gars,
non, mais ça va pas la tête. Ah, moi, j'ai tolérance zéro.
Mais c'est horrible.
Ouais.
Mais ça y est, ok, enfin. On n'est pas obligé de lire Charlie Hebdo.
Non, t'es pas obligé. Enfin, c'est qu'ils ont même
moi,
pas.
Moi, je lis pas Charlie Hebdo, je m'en fous.
Enfin, moi, parfois, je trouve drôle les images.
Hyper drôle. Mais moi, si demain il y a une caricature de Moïse avec une Torah dans le cul,
il y a aucun souci.
Il y a aucun souci. Je vais me dire oui, bon bah ils font ce qu'ils veulent, mais c'est
évidemment.
La liberté.
Et il y en a eu. Ouais.
Oui, il y en a eu.
Il y en a plein.
Mais moi, j'adore. Tout devrait exister tant que ce n'est pas. En fait, il y a une différence vraiment entre le blasphème et le racisme.
Ouais, mais complètement.
La religion, ça n'appartient qu'à celui qui croit.
Mais oui. Et puis la liberté de caricaturer, de blasphème. Enfin, c'est. Mais ouais, moi j'avoue, j'ai discuté récemment avec des amis musulmans qui étaient là, genre non, ça va trop loin, etc. Ça fait du mal, ça fait de la peine. Mais en fait, on n'est pas sur la même.
Mais tu sais, moi j'ai même des amis juifs. Qui quand au moindre truc vont me dire ça se fait pas, c'est antisémite, machin truc. Et peut-être que les musulmans n'ont pas tort, peut-être qu'au bout d'un moment c'est un peu trop, mais toujours est-il que tu n'es pas obligé de lire ce truc. Enfin, est-ce qu'on supprime Marine Le Pen?
Ah ouais, non. Mais en plus, vu que sur scène, je fais plein de blagues. Dès qu'on a essayé de me faire chier par rapport à ce qu'il fallait dire, ce qu'il fallait pas dire, la liberté d'expression, c'est tant que ça devient pas de la propagande politique haineuse. Enfin, on a vraiment, tant que ça devient pas Dieudonné, franchement, il y a de la marge pour avoir une parole libre, drôle et blasphématoire et tant mieux.
Non, mais surtout Charlie Hebdo, ils ont toujours critiqué l'intégrisme,
mais oui,
pas la religion en elle-même,
mais c'est sûr.
Mais oui, non, moi tout me fait flipper en ce moment. Donc du coup, ce mouvement de haïr tout ce qui se fait en France et de haïr tout pour haïr, je suis pas du tout pour. Et parfois les gens me tombent dessus sur Insta. Moi, quand je soutiens Caroline Fourest, on me dit meuf.
Oui, je me suis dit que
ben, Caroline Fourest, moi si je pars du principe que je suis féministe et contre l'homophobie et contre le sexisme et contre toute forme de racisme, et ben ce qu'elle dit, c'est exceptionnel.
Mais oui.
Et je la trouve profondément antiraciste. Mais profondément. C'est la première qui, sur les plateaux, va aller dire aux vieux véreux arrêtez de taper sur les femmes voilées. Et elle se fait taxer aujourd'hui de meuf hyper polémique juste parce qu'elle dit des vérités qui sont que... Il y a des intégristes qu'ils soient chrétiens. Elle, de base, elle se bat contre les chrétiens intégristes. C'est vrai que maintenant, bon, il y a des intégristes musulmans en France, mais elle se bat contre l'intégrisme en général. Et c'est là qu'ils sont forts, les intégristes. C'est qu'ils ont réussi à nous faire croire qu'il y avait un amalgame. Enfin, que un intégriste et un musulman, c'était la même chose. C'est ça qu'ils essayent de faire avec les frères musulmans. C'est très fort. C'est un mouvement très fort.
Et puis, on a le droit d'écouter Caroline Fourest et Rokhaya Diallo et d'entendre ce qu'elles ont à dire, de penser qu'il y a les places pour les deux.
C'est ça qui me saoule, c'est le blacklistage des gens. Blacklisting. Moi, j'ai envie d'écouter tout le monde. Rokhaya Diallo, parfois, elle fait des trucs, je suis en mode, c'est super. Et parfois, elle fait des trucs, je suis en mode, c'est très grave. Et parfois, Caroline Fourest, pareil. Bon, bah, est-ce que j'ai le droit? Merci, donnez-moi le droit.
Non, mais
tant que je sais qu'au fond de moi,
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Thank you. En fait, moi, je veux juste soutenir des gens que je sais que si demain dans le métro, ils assistent à une agression sexiste, homophobe ou raciste, ils vont ouvrir leur gueule. Et tant que je sais que moi, je suis cette personne et que les gens que j'aime sont ces personnes-là, bah, je les suis. Peu importe ce qu'ils vont dire derrière, je sais que ce qui compte, c'est les actes. Et je vois les gens dans les médias aujourd'hui qui sont connus. Il y a ceux qui font vraiment les choses, qui changent les choses, qui vont aider des lois à changer, qui vont aider des médias à changer, des trucs à changer. Et ceux qui juste postent sur Insta et qui disent nimp et qui sont en mode je ne suis pas Charlie parce que blablabli blablou. Mais derrière, il y a R.
Ah ouais, non, mais...
Ah, je suis vénère.
Non, mais t'as raison d'être vénère, encore heureux. Ouais, moi, j'ai même pas... Enfin, je suis rentrée dans la discussion avec des potes, mais ensuite, ça me paraît tellement... Enfin, tellement clair là-dessus, c'est... Enfin, c'est fou, quoi. Mais c'est vrai qu'un autre point que je trouve assez chouette chez toi, c'est cet endroit du judaïsme que tu assumes, et mais qui est pas si commun.
Ah bah non, mais ouais,
qui est très étonnant. Alors, aux États-Unis, pareil, toutes les humoristes que je suis, Sarah Silverman et tout, elles assument puissance 10 000.
Parce qu'aux États-Unis, c'est très différent.
C'est très différent. Et en fait, oui, en France, t'as la culture, justement, et juif israélien de se cacher, etc. Ou de caricaturer, ou en effet, d'être dans un truc safe, mais parfois un peu religieux et un peu...
Moi, la vérité, c'est que j'ai beaucoup d'amis qui ont eu des agressions antisémites, qui ont subi des agressions antisémites. Et c'est vrai que dans mon entourage, depuis que je suis petite, c'est... Enfin, moi, mes potes, ils ont pas du tout la même fierté. Ils ont... j'ai une de mes meilleures amies qui me dit tout le temps, Élise, comment tu fais ? Parce que moi, j'ai envie de m'engager en politique, je pourrais jamais dire que je suis fuge.
Ouais.
Je sais que ça va me rayer de la carte, en fait.
Ouais.
Le problème, c'est ça, c'est que souvent, on se rend pas compte, mais être juif, ça te raye de la carte. Parce que ça veut dire que t'es pistonné, ça veut dire t'es blindé, ça veut dire que tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un.
Bien sûr.
Bon, moi, je me suis dit, écoute, si je peux montrer aux gens que être fuge, c'est aussi être un humain normal.
Mais oui.
Moi, j'en suis très fière. Je suis pas du tout pratiquante, je crois même pas en Dieu,
ouais,
en fait,
pareil.
Pour tout dire.
Ouais, ouais.
Mais c'est ma culture, quoi.
Ouais.
C'est ma culture. Et puis, si tout le monde a le droit de revendiquer sa culture, moi aussi, j'ai envie de le faire.
Mais bien sûr.
Et je pense que c'est trop cool. Mais je le fais pas du tout religieusement.
Non, en fait, tu le fais de façon très moderne. Et à mon avis, c'est un truc
qui je suis.
Ouais, et puis c'est pas mal. C'est à mon avis un truc aussi assez symptomatique des réseaux sociaux. Dans le sens où là où les réseaux sociaux ont permis à, j'en sais rien, Angèle et Marie Papillon de vivre leur amour. Mais il y a aussi un truc qui est que tu peux être fuge de façon subtile et pas pratiquante ni croyante, mais juste avoir partagé ce sentiment d'appartenance.
C'est grave.
Et
c'est hyper important l'appartenance.
Boom, cut. À ce moment-là, samedi 7 novembre, 19h, Joe Biden est élu et mon enregistreur s'arrête. La carte SD de 2 gigas étant pleine et non formatée. Plus tard, j'achèterai des cartes SD de 16 gigas et me martèlerai de bien formater la carte avant chaque enregistrement. Heureusement, je backupais avec l'iPhone et nous allons finir cet épisode avec les réponses d'Élise au questionnaire de Proust. À la toute fin, nous sommes interrompus par la voisine du dessous, d'Élise, qui vient se plaindre du bruit de la veille. Élise nous a fait part de ses frasques, souvenez-vous. J'ai arrêté là l'épisode, parce que sinon c'était vraiment trop long. Voilà, on va se dire qu'on garde des épisodes d'1h30 max, à part exception. Genre Laura Domange qui nous parle de son avortement, là oui, bon bah... Là je laisse, je mets une demi-heure de plus au fourneau. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Que vous avez été comme moi, charmé par Élise, sa vivacité, son instinct. Je vais absolument voir le film Idiocratie, j'ai checké et c'est avec des acteurs que j'adore, Luke Wilson, Maya Rudolph, Dax Shepard. Je vous laisse, j'ai une self-tape à préparer. Self-tape, ne pas confondre avec sex-tape. Self-tape, c'est des essais qu'on fait soi-même, qu'on envoie pour un casting. Je dois jouer une prostituée vengeresse en 14-18. 25 ans, joli minois et forme généreuse. Ça peut être moi, sauf pour les 25 ans. Mais bon, j'ai surtout peur du côté film d'époque, du côté fille des rues qui parle comme ça. Fernand, laisse-moi rentrer, Fernand. Voilà, faut pas surjouer la pauvreté. Je vais vous dire une réplique de mon texte. Toi, tu viens de Paris, tu sais te débrouiller, t'as débarqué ici seul au volant d'une bagnole, le monde est à toi. Moi, j'ai toujours connu que Saint-Paulin. À 15 ans, j'étais dans la rue en train de crever. C'est Marcel qui m'a sauvé. Sans lui, je suis rien. Toi, pourquoi tu fais tout ça ? Pour lui, ton fils, un fils qui te connaît pas et qui te jugerait sans doute s'il savait la vérité ? Bon, c'est pas mal, non ? En fait, j'ai juste peur que d'avoir un peu une voix de bourgeoise, vous voyez ? Est-ce que ma voix de bourgeoise ressort ? Faut que je sois un peu plus brutale, genre fille du peuple, mais pas la caricature. Je recommence. J'essaie de rester naturelle, mais d'être un peu moins marqué socialement. Toi, tu viens de Paris, tu sais te débrouiller, t'as débarqué ici seule au volant d'une bagnole. Le monde est à toi. Moi, j'ai toujours connu que Saint-Paulin. À 15 ans, j'étais dans la rue en train de crever. C'est Marcel qui m'a sauvée. Sans lui, je suis rien. Et toi ? Pourquoi tu fais tout ça ? Pour lui ? Ton fils ? Un fils qui te connaît pas et qui te jugerait sans doute s'il savait la vérité ? Bon, allez, ça va le faire. Sinon, entre... Minou, viens là, viens, viens là, viens là, viens là, calme-toi. Calme-toi, calme-toi, bébé. Sinon, entre le moment où j'ai enregistré l'intro de cet épisode et là maintenant où j'enregistre l'outro, quelques heures se sont écoulées et j'ai réfléchi. Je vais peut-être pas faire de pause du podcast en janvier, mais en effet, proposer une autre forme avant de réattaquer avec les hommes. J'aime beaucoup mes humoristes d'Inter, mais je vais explorer quelque chose avec vous. Chaque lundi, à L'Île aux Moines, sortir un épisode où je vous lis les avancées de mon roman autobiographique à la première personne. Des épisodes seuls, inspirés par ceux de Sarah Silverman ou Ghislain Blick dans La Forme, qui monologue seul, et c'est excellent. À un moment, j'avais proposé à Reski, je lui avais dit « Et si c'était moi, le mec que je veux ken ?» Et il m'avait pas trop encouragée. Je sais évidemment que la plupart des gens qui écoutent le podcast le font pour mes invités. Plus l'invité est connu, plus il y a d'écoute, c'est clair. Mais après tout, qu'est-ce que j'ai à perdre ? Moins d'écoute ? Les meilleurs resteront, puis ça reprendra plus fort, plus tard, je sais pas, ça fera moins d'argent, mais de toute façon, ça fait pas d'argent, hein, vu que le podcast me rapporte 0,0 centime d'euros. Je vais pas changer le titre, puisque le thème de réflexion reste le même, autour des mecs que je veux ken, et on reprendra les invités quand je reviendrai à Paris. Ça vous dit ? Et je parlerai dans mon roman de mon addiction à Instagram, entre autres. À un moment, je pensais faire des lives à la sortie de chaque épisode sur Insta, de ce nouveau concept, pour débriefer avec vous. Mais je crois que vous et moi, on est trop pudiques. Non ? Continuez à m'envoyer des DM, avec vos pensées, vos retours, vos critiques, quand elles sont constructives, hein. Dans le sens, je reçois des messages du type « C'est pas bien de dire du mal des hommes gros et moches, des méchants, tu dois changer le prisme de ton positionnement quant à l'amitié homme-femme, bien sûr qu'elle peut exister, le fait même de poser la question dans mes stops, en fait. Vous connaissez mon ton. D'ailleurs, c'est bizarre, dans cet épisode avec Élise, je dis souvent le mot bienveillance, alors que je pense que la bienveillance a des limites. » Et la limite, c'est pouvoir rigoler, faire des blagues et provoquer et s'autoriser un peu de vieille bonne grossophobie pour déconstruire derrière, ça va. Franchement, si on peut plus rire des gros. J'étais grosse enfant, j'ai souffert, mais c'est bon, j'ai le droit, je veux dire, c'est... Enfin, envoyez-moi vos émotions, ce que vous ressentez, ce que ça vous évoque, ok ? Mais faisons attention aux injonctions morales, à la censure. Là, je vois sur les réseaux la vidéo de Norman qui tourne, où on dit qu'il est raciste et misogyne. C'est de l'humour, les gars, en fait. C'est peut-être pas ce qu'il y a de plus fun et de plus moderne, mais reprendre 40 secondes de son passage sur scène de stand-up pour ensuite faire 10 posts sérieux en lui reprochant ses mots comme s'il avait parlé au G20, enfin, je trouve ça absurde, en fait. On politise des blagues, bon, de plus ou moins bon goût, certes, mais ça me fait chier, parce que je connais pas personnellement Norman. Apparemment, il y a eu des plaintes d'harcèlement contre lui. Je dis pas qu'il faut systématiquement voler à la défense de l'homme cis blanc, mais par contre, oui, il faut voler à la défense des humoristes, parce que moi, il y a plein de passages dans mon spectacle qui peuvent être interprétés très bizarrement sur 40 secondes. Et si j'ai pas de backlash, c'est parce que je suis pas connue, hein. Enfin, vous et moi ne serons peut-être pas d'accord. Mais je suis heureuse d'évoquer ces questions avec vous et à ma petite mesure d'avoir cette plateforme merveilleuse du podcast et vous comme auditeur. Merci encore d'être là. Finissons avec la voix d'Élise.
La qualité que tu préfères chez un homme ?
Son intelligence.
Et la qualité que tu préfères chez une femme ?
Son intelligence.
Le principal trait de ton caractère ?
Waouh. Exigeante.
Yes.
Je sais pas, non. Ah,
c'est
comment
c'est bien.
Pas ça.
C'est beau, exigeante, c'est bien. Ce que tu apprécies le plus chez tes amis?
Tellement tout. Je suis très exclusive avec mes amis. Genre, quelqu'un qui est mon ami, c'est quelqu'un que j'ai validé de A jusqu'à Z.
Okay.
Donc j'apprécie tout. Mais ce que j'aime le plus, c'est leur liberté. Des gens libres. Leur ouverture d'esprit.
Ouais.
C'est ça que j'aime le plus.
Ton principal défaut?
Je suis une grosse flemmarde.
Mais non.
Si, je repousse tout au lendemain et tout, très lent. Pas du tout, Enfin, pas du tout rigoureuse.
Ton occupation préférée?
Jouer aux Sims. Non, mon occupation préférée, franchement, fumer un joint avec mes potes.
Ouais.
C'est mon moment préféré.
Ton idée du bonheur? Waouh, je sais pas, c'est tellement dur, idée du bonheur, mener du bonheur, atteindre tous mes objectifs professionnels.
Et quels sont, genre, l'un de tes objectifs professionnels?
Ben, je sais que c'est tabou en France, mais vraiment, être millionnaire.
Non, trop bien.
Voilà. Mais pas pour être millionnaire, mais juste pour avoir une vie sans manque. Je veux manquer de rien.
T'es notre Beyoncé à nous, quoi.
Non, non, pas du tout.
Quel serait ton plus grand malheur?
Moi, mon plus grand malheur, c'est le décès, enfin, l'abandon. C'est mon plus grand malheur. C'est de perdre les gens que j'aime. Je touche du bois.
Si tu n'étais pas toi, qui voudrais-tu être?
Oh, énorme. Alors, je me suis déjà posé cette question et j'hésitais vachement entre être une meuf trop bonne, genre Emrata, là, ou être une icône, genre être Gloria Steinem ou Simone Veil, tu sais, qui n'est plus, malheureusement, mais je veux dire à cette époque. Mettre dans la peau d'une héroïne.
Est-ce que parfois t'éprouves de la jalousie?
Ouais. C'est pas de la jalousie en mode oh ça se fait pas, mais je me dis putain, mais j'apprends vachement à le dompter.
D'accord.
Je suis de moins en moins là je me retrouve de moins en moins à envier les gens, je me dis non, moi j'aime trop bien qui je suis, mais je pense que c'est une question de maturité aussi, la jalousie. Mais en fait on a été tellement confrontés à des gens fous, envieux, jaloux, que ça me dégoûte maintenant. Je suis en mode oh là là, ridicule, attends-toi de toi, tu sais. Mais avant, quand j'étais au lycée, j'étais grave en mode putain, cette meuf a trop de chance, et pas moi. Une délire.
Non, c'est non. Où aimerais-tu vivre?
Franchement, à Paris. Mais quand je dis ça à ma mère, ça m'inquiète.
Ah ouais?
Oui, ils sont très rescapés de la Shoah, tu sais, en mode, il faut fuir à tout moment.
Ah oui, oui, non, il est bien pareil. Ils sont en mode sur New York, c'est ça?
New York ou Israël?
Ah ouais, ou Israël?
Ils disent, tu sais, s'il y a les nazis, c'est le seul endroit où tu pourras aller.
Ah ouais, non, mais mes parents, c'était pas tout. Mes parents fantasmaient sur le Canada.
Ah, mais les États-Unis et le Canada, c'est aussi une terre d'exil, bien sûr. Mais en tout cas, on me dit souvent, la France va te renier très bientôt. Mais je veux pas y croire, moi, j'aime trop Paris.
Moi aussi, j'aime trop Paris, j'aime trop la France.
Ouais.
Ta couleur préférée?
Noir.
C'est gay. ton repas préféré?
C'est horrible, je vais dire McDo.
Oh putain.
C'est vraiment mon restaurant. C'est mon restaurant préféré.
C'est vrai.
Et ça désole tout le monde dans ma famille et dans mon entourage, mais pour moi, c'est un sans faute.
Surtout que tu peux pas l'assumer même pas en story, en vrai.
Franchement, moi, j'ai décidé de m'en foutre parce que, en vrai, si tu creuses bien, McDo dans le monde, c'est nain, mais McDo France, ils se sont pris tellement de taquets que la viande, elle est française, les légumes, ils sont bio. C'est pas tant de la merde. En France, en tout cas. Après, aux États-Unis, c'est terrifiant. Mais en France, ils se sont pris trop de taquets. Ils ont obligé les équipes de devenir un peu LC. Mais bon, ça reste McDo, faut pas se leurrer. Mais
moi, le problème que j'ai avec McDo, c'est trop sucré, en fait. Et que j'ai leur petite barquette de frites, je la finis tellement vite, elle me plonge dans un désespoir immense, quoi.
Moi, ce que j'aime, c'est que ça ne me déçoit jamais.
Ouais.
C'est jamais décevant. En mode, je veux un double cheese, c'est un double cheese que j'aurai. Et il aura toujours le même goût. Et waouh.
T'es pas addict au sucre au chocolat?
Non, vraiment, je suis très salée. Je suis addict aux chèvres.
Fromage.
Je suis addict au fromage.
Ouais, fromage.
Et alors que je suis intolérante au lactose, très probablement, parce que ça me donne des chiasses caramines.
Ah putain. Et le pain, t'aimes le pain?
J'aime le pain.
Ouais, mais pas maladivement.
Non, pas maladivement.
Ouais, moi je suis folle du pain.
Moi c'est vraiment le fromage, c'est très. Une vraie addiction.
C'est bon le fromage.
Ouais.
C'est chiant que ça fasse grossir, c'est que c'est horrible.
Putain. Ouais. Je veux dire, je suis partie en vacances 2 semaines au Japon.
Ouais.
Le premier truc que j'ai dit en rentrant à mes parents, c'est quand je rentre, il faut qu'il y ait un petit béni et du Saint-Marcellin sur la table de la cuisine. Je manque de fromage. J'en rêvais. Voilà.
Tes prénoms préférés?
Louise, j'adore.
Ouais, c'est
pour une meuf. Et pour des mecs, moi j'adore Solal.
Ouais, Solal.
Solal.
Ouais, Solal, c'est trop
le
beau.
Sang.
Ouais, c'est trop beau. Ce que tu détestes par-dessus tout, la méchanceté.
Ouais, ce que je déteste par-dessus tout, c'est le bullshit.
Faut que je te laisse.
Ah non, mais je sais pas qui c'est.
Ah bon? Ça doit être un
fan des
Google Fab. Ouais, ouais, bah,
je sais. Ce que je déteste par-dessus tout, c'est le bullshit. Yes.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.